Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus et d'avoir répondu présent et présente à notre invitation. On a à peu près 2 heures de discussion. On se donne jusqu'à 16h30 maximum pour espérer ensuite boire un petit verre et manger un petit bout de gâteau ensemble sur la table qui se trouve au fond et éventuellement échanger un peu sur des enjeux un peu plus locaux parce qu'en fait, avec Irina, ça fait longtemps qu'on aimerait bien voir émerger aussi un groupe local de travail sur les questions d'accessibilité. Et donc, on s'est dit la première chose à faire, c'est de rencontrer les personnes concernées et intéressées par ces questions. Donc, bienvenue et merci d'être là. On a à peu près 2 micros, donc on va essayer de... Enfin, on a 2 micros, pas plus. On va essayer de les faire circuler comme possible. Et moi, je m'arrangerai pour faciliter la circulation aussi. Je vais rappeler les personnes qui sont présentes aujourd'hui. Et si j'écorche votre nom ou si j'oublie quelqu'un, vous n'hésitez pas à m'interrompre pour me corriger. Merci. Donc pour la Fédération des aveugles Alsace-Lorraine Grand Est, on a son président, Monsieur Gabriel Reb. Monsieur Hakim Koresh n'est pas venu. Si, vous êtes là. D'accord, c'est vous. Merci. On a messieurs Jacques Allon, Jean-Claude Beuglin et Gilles Trottmann qui sont membres du CA. Pour l'association Happy DV, nous avons la délégation Alsace avec monsieur Daniel Bouffier qui est venu accompagné de Jean-Claude Haim et de Jean-Claude Beuglin et de madame Catherine Stouff. Voilà. Pour l'association Ivoire, Michel Franck qui est chargé de mission, qui nous parlera aussi, il me semble, d'un projet de mobilité pour lequel vous contribuez. Et on a aussi invité des personnes qui travaillent à l'université ou qui sont aussi qui travaillent avec l'EMS ou avec d'autres structures, mais qui ne sont pas des associations. Donc on a Marc Chantreux qui s'installe tranquillement et qui peut d'ailleurs même venir plus près s'il le souhaite pour davantage échanger avec nous. Donc Marc Chantreux, il travaille au Centre de calcul et de services avancés à la recherche, le César de l'INISTRA. Il est également président de LILO, Linux Logistique, le support juridique et administratif de la Flammkuch Connection. Donc c'est le groupe des utilisateurs de Linux et de logiciels libres de la région de Strasbourg. Il est aussi intéressé et investi dans les technologies de convivialisme. Et c'est une personne lien entre les différents groupes libristes du nord de l'Alsace. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté, parce que je pense que c'est important. Ensuite, j'aimerais présenter Mme Sam Danzer, qui est conseillère numérique et coordinatrice à la ville et à l'EMS, notamment dans des actions et des projets d'inclusion numérique. C'est juste ? Merci. Merci. Et Madame Aurélie Guillaume, qui est, alors pareil, je ne suis pas sûre de l'intituler, mais responsable projet d'accessibilité technique.
Alors, c'est Aurélie Guillaume. Donc, Aurélie Guillaume, et moi, je suis chargée de projet pour APF France Handicap, et principalement, du coup, dans le digital, le numérique et tout ce qui est avec. Voilà.
Merci. Donc, voilà pour les personnes invitées. Je pense que dans la salle, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ne sont absolument pas renseignées sur ce que c'est l'accessibilité numérique. Je ne sais pas du coup si c'est utile de... Pardon. Si c'est utile d'introduire le sujet. Je nous présente simplement encore nous deux. On va assurer la modération de la discussion. Donc Irina Lambla, qui est une utilisatrice expérimentée des logiciels d'outils libres et qui est une contributrice de longue date. Et moi-même, Marjorie Aubert, donc, je suis graphiste et programmeuse de métier et sinon je suis membre du hackerspace Hackstub. Et donc c'est en ce nom que je viens ce soir. Et au niveau de la répartition des rôles, donc, je vais un petit peu plus être la personne à qui vous pourrez aussi faire signe s'il y a un souci, s'il y a un besoin. Je m'assurerai de faire circuler les micros. Si vous avez besoin de lingettes désinfectantes, etc., vous me faites un petit signe, je viendrai. Et sans plus attendre, je vais laisser la parole à Irina qui animera davantage la discussion. Merci.
Alors, c'est bon, mon micro fonctionne. Donc, je suis utilisatrice de logiciels, donc y compris de logiciels d'assistance, vu que je suis malvoyante. Et donc, le sujet de l'accessibilité numérique est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps, vu que je suis concernée et que j'ai bien envie de faire bouger les choses sur le sujet. Et donc, Et donc aujourd'hui, c'est l'occasion de tous se rencontrer et d'essayer d'échanger les points de vue sur le sujet. Donc ce sera plus sous forme de discussion.
Et de quoi tu as envie de parler en premier ? Parce qu'on a, on vous a un peu envoyé un plan indicatif, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'obligation d'en parler, mais c'était simplement indicatif. Et est-ce qu'il y a un sujet que tu as envie de mettre en avant d'abord ?
Moi, j'aimerais savoir si vous, il y a un sujet dont vous voudriez discuter en priorité.
La captation ayant été interrompue quelques minutes, nous avons choisi avec Irina de remplacer l'ellipse par un insert au montage pour restituer ce qui s'est dit. Donc à cet instant, Madame Sam Danzer proposait de reposer une définition de l'accessibilité numérique que nous avons complétée par des précisions sur son encadrement légal. Donc l'accessibilité numérique est la mise à la disposition de tous les individus, quel que soit leur matériel ou logiciel, leur infrastructure réseau, leur langue maternelle, leur culture, leur localisation géographique ou leur aptitude physique ou mentale, des ressources numériques. L'accessibilité numérique recouvre les sites web, la télévision et la radio numérique, les téléphones mobiles de troisième génération, les usages privés et professionnels des systèmes et réseaux informatiques, etc. Elle s'intéresse donc aux dispositifs matériels ou immatériels, comme au contenu. Et par ailleurs, elle concerne tous les types d'entraves qui peuvent réduire l'accès à ces dispositifs. La prise en compte de ces aspects, qui étaient précédemment considérés comme intéressant uniquement un groupe cible spécifique de la population, aura en réalité des retombées positives pour la majorité des utilisatrices des technologies. Wikipédia. À partir de 2005, une succession de lois encadre la mise en accessibilité en France sous l'impulsion européenne, notamment avec des projets dits « inclusion ». Donc en 2005, une loi pour l'égalité des droits et des chances pour la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, en particulier l'article 47 sur l'accessibilité des services de communication au public en ligne, impose le respect et l'application de règles d'accessibilité, également une déclaration d'accessibilité et un schéma pluriannuel de mise en accessibilité. Et ça concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires atteint 250 millions d'euros et les services publics. En 2009, un décret précise l'article 47 et voit la création d'un référentiel d'accessibilité pour les services de communication publique en ligne. Et en 2015, un arrêté étend le référentiel général d'accessibilité aux administrations. Enfin, en 2019, un décret précise les exigences et les sanctions qui expose notamment les structures à une amende allant de 2 000 à 20 000 euros. Et la mise en accessibilité est aussi valable pour les applications mobiles ou le mobilier urbain numérique.
Cela étant dit, aujourd'hui, seuls 13% des sites publics en ligne sont accessibles. Je cite les Dévalideuses, donc Céline Extenso et Béatrice Pradion, qui sont les fondatrices. Les Dévalideuses, c'est un collectif anti-féministe qui a pour objectif de sortir d'une vision validiste aussi de la mise en accessibilité. Donc voilà pour un petit topo introductif. Et peut-être que ce qui pourrait être intéressant, et ce qui vous ferait parler aussi, c'est de parler de où on en est à l'échelle locale aussi, à Strasbourg et environ. Comment est-ce que ça se passe ? Est-ce que quelqu'un aimerait aussi faire un retour un peu sur son expérience, sur ses usages, avant peut-être de parler plutôt technique et solutions ou initiatives ? Je me déplacerai pour vous passer le micro, n'hésitez pas à me faire signe. Marc ?
Oui. Est-ce que localement, les choses qui sont produites localement sont plus accessibles ou pas ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vais donner la parole à Marc.
J'aimerais que tu m'expliques ce qu'est une vision validiste de l'accessibilité.
Moi, je ne sais pas si je suis la personne la mieux placée pour l'expliquer, dans le sens où c'est une notion... mais pour moi, une vision validiste, c'est peut-être aussi de penser que, en gros, en tout cas pour le numérique, il faut l'aménager et le rendre accessible pour des personnes, alors qu'on aurait pu aussi le penser dès le départ autrement pour qu'il n'y ait pas en fait, à réfléchir à cette inclusion et à le penser en fait, de façon inclusive. Et une vision validiste, je trouve que pour moi, en tout cas, ça me fait dire que, en fait, il faut que les personnes en situation de handicap s'adaptent et ce n'est pas les outils ou les dispositifs qui s'adaptent. Et une vision validiste, c'est peut-être la vision qui, en fait, considère que le validisme est la norme et que tout doit rentrer dans cette norme, la validité, pardon. Ouais. Mais si quelqu'un souhaite, quelqu'un ou quelqu'une souhaite faire une définition plus poussée...
Voilà, alors que, poussée, que si on a une vision non validiste, c'est notamment ben, demander leur avis aux personnes concernées. Parce que souvent, il y a beaucoup de projets où finalement, on va réfléchir à notre place, on va décider à notre place, on va dire « Ah, les pauvres handicapés, on va faire ça pour votre bien, on va faire ça pour vous. » Mais on ne nous demande jamais notre avis. Et, les personnes valides s'imaginent des choses qui ne sont pas forcément toujours adaptées ou qui ne conviennent pas forcément, mais qui correspondent à leur vision des choses. Et du coup, ce serait bien non seulement de demander l'avis aux personnes concernées, mais aussi, encore mieux, que les personnes concernées puissent participer directement, que ce soit dans les essais, dans la définition des choses, mais peut-être aussi même dans la conception, ou même, même elles-mêmes pouvoir, pouvoir même fabriquer la chose, quoi. Enfin, être vraiment partie prenante du projet, même le fabriquer, même ouais, fabriquer soi-même des choses.
Moi, je voudrais revenir sur l'intervention précédente concernant le validisme. Alors, validisme, c'est un mot que j'emploie jamais et que je n'aime pas. J'ai horreur de ce mot-là, donc je ne l'emploie jamais. Mais pour compléter ce qui a été dit par rapport à l'accessibilité numérique, je crois qu'on peut faire un parallèle entre l'accessibilité physique et l'accessibilité numérique. L'accessibilité physique, c'est une notion que je crois à peu près maintenant tout le monde connaît, comprend. On sait ce que ça veut dire. Rendre un lieu accessible, un immeuble accessible à quelqu'un qui ne peut pas monter les escaliers, à quelqu'un qui est en fauteuil roulant. On voit très bien, on peut très bien s'imaginer la situation et s'imaginer la difficulté, les difficultés que rencontre une personne à mobilité réduite. Mais l'accessibilité numérique, c'est la même chose. C'est la même chose, mais par rapport à l'information dématérialisée, à l'information numérique. Et dans un cas comme dans l'autre, si on ne le pense pas au départ, si on ne conçoit pas, dans le cas de l'accessibilité physique, si on ne conçoit pas l'espace public, si on ne conçoit pas l'immeuble, la résidence ou les bureaux, ou, en incluant la notion d'accessibilité physique, après, ça va être compliqué de rendre le bâti accessible. C'est possible dans la plupart des cas, mais c'est souvent compliqué et onéreux. L'accessibilité numérique, c'est pareil. Si un site n'a pas été conçu en incluant d'emblée l'accessibilité numérique, un site, un logiciel, une application, pour la rendre accessible, ça va être compliqué, ça va demander beaucoup de temps et ça va coûter beaucoup d'argent. Donc, il faut y penser dès le départ. C'est ce qu'on appelle l'accessibilité native dans notre jargon.
Jean-Claude Beuglin, quelques mots pour peut-être pour lancer le débat. Et, avec l'âge qu'on a, on a été confronté à l'apparition un peu des outils numériques, des outils informatiques, hein, depuis longtemps. Et les choses ont un peu bougé. C'est vrai, la législation prévoit un certain nombre de choses. Mais nous, utilisateurs lambda, on a été confrontés dès le début à des outils qui permettaient tant soit peu d'accéder à l'information numérique. Hein. Et donc aujourd'hui, il existe des outils, pour ne pas les nommer, JAWS, NVDA, VoiceOver, etc. Donc nous, utilisateurs de base, nous nous battons à ce niveau-là. Nous battons pour permettre à nombreux d'entre nous d'accéder à ces outils. Et c'est un besoin pour les personnes malvoyantes, aveugles. Lorsque c'est apparu, moi, j'ai ressenti tout de suite que c'était une grande opportunité. Hein. Avant, pas moyen de consulter le bottin, hein. Pas moyen d'accéder à, parfois à la littérature, parce que les bouquins braille, ça existe, mais il y a peu de gens, finalement, qui lisent le braille. Et puis, c'était des brouettes et des brouettes de bouquins. Hein. Donc, voilà. Aujourd'hui, nous en sommes rendus là. La législation impose un certain nombre de choses, tend à rendre les choses accessibles, et nous, on se bat avec ça. Et donc, je ne sais pas, Gabriel, si tu veux peut-être prendre le relais et situer un petit peu la chose par rapport à cette accessibilité, par rapport à notre pratique. Nous, on en est là. Hein. Après, il y a des problèmes qui sont bien au-dessus. Bon, la lecture des étiquettes NFC, y a tout ça. Tout ça, c'est censé nous faciliter la vie.
Oui, tu viens, Jean-Claude, d'évoquer. Oui. Nous sommes en bout de chaîne. Voilà. Et nous essayons, en tant que... Nous sommes dans la qualité d'usage. Nous essayons de faire avec les outils qui sont mis à notre disposition. Alors, il se pose deux grands problèmes, déjà. L'information des populations, des personnes que nous pouvons aider, pour leur dire qu'il y a des outils qui existent. Et après, se pose la question, comment les faire entrer dans un cursus ou dans une dynamique où ils pourraient apprendre des choses. Et après, se pose un autre problème, c'est le déplacement de ces personnes. Et c'est là que je reprends la thématique de Daniel Bouffier, qui disait qu'il faut penser des choses globalement. Si l'accessibilité de la voirie, des bâtiments et les déplacements ne sont pas prévus, les personnes ne viendront pas dans un espace numérique pour venir se former.
Un exemple tout simple, il y a aussi ici au SADOC, une personne qui ne voit pas saura aller au tram, mais si elle n'est pas guidée, elle ne pourra pas venir ici.
Alors, mais justement, tout ça, ça relève de la même problématique. Quoi. Après, moi, il y a une chose qui me tient particulièrement à cœur. Moi, j'aimerais qu'on puisse ouvrir un débat, par exemple, sur l'emploi, sur l'accessibilité de l'emploi aux personnes déficientes visuelles, aveugles ou malvoyantes. Là, il y a un vrai sujet de société. Et je me rends compte que malgré tous les outils qui sont mis en place, il y a toujours le problème de la formation. Déjà dans les centres de formation professionnelle, les personnes formatrices, formateurs, n'ont rarement de formation. Donc les personnes aveugles ou déficientes visuelles qui souhaitent rentrer dans un cursus de formation quel qu'il soit, elles sont déjà exclues de fait. Parce que les formateurs ne sont pas formés. Donc, elle se replie sur des structures dédiées, comme la VH ou des structures de ce type-là. Donc là, il y aurait vraiment une ouverture à faire. Mais ça relève vraiment des politiques publiques, je veux dire. S'il n'y a pas une volonté publique qui impose un certain nombre de choses, on n'avancera pas sur le sujet. Après... Je me rends compte qu'il y a une trentaine, quarantaine d'années, il y a des personnes aveugles qui pouvaient travailler et qui ne travaillent plus en ce moment. Parce que l'accès à l'emploi est devenu compliqué justement à cause des outils que les gens ne maîtrisent pas. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une réflexion ? Comment sensibiliser les employeurs, que ce soit les employeurs privés, les employeurs institutionnels, locaux, justement à ce problème de l'emploi. Là, j'ai eu encore récemment un jeune qui s'est adressé à moi. Par le CNED un examen de gestion compta. Alors, je lui ai dit, c'est bien, tu as repris des études, mais il faut savoir que la gestion compta, les outils utilisés, c'est souvent des logiciels, des logiciels maison. Et quand tu vas arriver dans une entreprise, l'accessibilité, elle est pratiquement nulle sur ces outils. Alors, comment tu vas trouver du travail ? Donc, c'est toutes ces problématiques-là. S'il y a des retours d'expérience dans ce domaine, ça pourrait être intéressant de les partager. Mais en tout cas, moi, j'ai Gilles Trottmann à côté de moi, qui a travaillé à la mairie de Brumath et qui a perdu la vue très récemment. Et les premiers réflexes des employeurs, c'est un peu de vous évincer et de vous mettre en invalidité. Lui, il s'est battu pour le maintien dans l'emploi. Et il pourrait peut-être nous donner un retour d'expérience. ça pourrait peut-être intéresser des gens ici. Voilà. Alors, je ne veux pas monopoliser le micro, mais si quelqu'un veut intervenir, suite. Je prends la suite, du coup.
Voilà, donc en fait, moi, j'ai perdu la vue récemment, il y a 3 ans à peu près. Avant ça, je faisais de la comptabilité, du contrôle de gestion. Donc, et en fait, ce qui a posé gros problème, c'est déjà à la base au niveau de l'employeur, des médecins du travail, des RH, qui, en général, ne savent pas comment reclasser un déficient visuel. Donc, moi, je me suis battu pour garder mon emploi. C'est moi qui ai apporté les solutions, en fait, en disant voilà ce qu'il faut faire. Il faut les démarches administratives au niveau médical, etc. Par contre, j'étais obligé de changer de créneau, effectivement, parce que la plupart des logiciels ne sont pas conçus de manière accessible, donc on ne peut plus les utiliser. Et j'ai consulté même le fournisseur du logiciel, le concepteur, qui est un fabricant français, donc qui est censé rendre son logiciel accessible donc depuis 2005. Ce n'est pas le cas. Et la réponse qu'on m'a donnée, ben, ça concerne très peu de gens, ça ne nous intéresse pas d'essayer de le rendre accessible.
Ça, c'est la vision validiste.
Voilà, ça, c'est la vision validiste. Alors que s'il l'avait fait dès le départ, même si c'est pour très peu de personnes concernées, si c'est fait dès le départ, déjà, le coût est beaucoup plus faible, puisque c'est fait tout de suite à la conception, au niveau de la programmation du logiciel. Et c'est souvent pas grand-chose. C'est souvent juste des libellés ou des boutons qui manquent, possibilité de se déplacer avec une touche de tabulation. C'est des fois, trois fois rien. Mais une fois que c'est fait et mal fait, ben c'est difficile de faire revenir en arrière pour que les gens acceptent de faire le travail qu'ils sont censés faire.
Tout à fait. Et il n'y a pas que sur ces logiciels spécifiques qu'on a cet argument. Sur beaucoup de logiciels, il y a cet argument qui revient et qui, en général, sert de paravent pour mettre ça sous le tapis.
Michel Franck pour l'association Ivoire. Je voulais juste aussi recadrer un peu le débat en disant il y a l'accessibilité physique et l'accessibilité digitale, mais l'accessibilité digitale ou numérique permet aussi de rendre le monde réel plus accessible avec les objets connectés, etc., avec un grand nombre de logiciels et applications. On pourra, je pense, grâce au numérique, reprendre main sur le monde réel. En tous les cas, c'est ce que j'espère. Et on pourra en parler.
Je peux juste intervenir par rapport à votre. Je rebondis sur ce que vous venez de dire, Monsieur Franck. Quand on arrive sur ces thématiques, par exemple, d'accessibilité digitale ou d'assistants vocaux, par exemple, qui pourraient nous faciliter le quotidien. Là, je m'en rends très bien compte. Par exemple, je prends le cas des déficients visuels. On a Google Home, mais si vous donnez une Google Home à une personne qui n'a jamais eu d'ordinateur entre les mains, qui n'a jamais eu la chance de savoir comment faire, elle ne fera rien avec. Et c'est là qu'il manque un gros maillon. Si vous n'avez pas une association ou si vous n'avez pas une personne qui va chez la personne pour déjà voir, pour lui installer son assistant, de lui connecter son Wi-Fi, il ne se passera rien.
On est bien d'accord.
C'est très compliqué à ce niveau-là. Et là, on se rend compte que la chaîne humaine pour faire progresser ces outils-là, elle est très, très insuffisante. Et les associations, malheureusement, dans nos associations, comme vous pouvez le voir, là, aujourd'hui, nous sommes à l'approche du deuxième âge. Et les personnes, la jeunesse derrière, elles ne fréquentent plus assez les associations. Et Dieu sait que ces personnes-là, on en aurait besoin, plus besoin qu'avant encore. Mm-hmm. Et c'est un réel problème pour toutes les associations. Alors, c'est un peu là, voilà.
Merci. Voilà pour recentrer le débat. Gabriel a abordé le chapitre des associations, le rôle des associations. Donc localement, ça existe. La Fédération des aveugles, on a tenté plusieurs choses, mais c'est toujours au niveau associatif, avec des petits moyens, avec des bénévoles. Les uns et les autres, nous essayons de fournir les outils, d'amener les gens à utiliser les outils, mais comme je disais, avec très peu de moyens. Donc ça, c'est un des aspects. On voulait faire le point sur ce que font les associations localement. On pourra en parler, Gabriel, Daniel aussi pourra en parler, Jacques, qui enseigne VoiceOver pour les utilisateurs d'iPhone et d'iPad, etc. Donc voilà, c'est un peu ça. Le monde associatif, c'est un des... Nous est à ce niveau-là. Utilisateurs de base, nous en sommes là. Après, Gabriel a évoqué tout à l'heure, évidemment, le thème de l'emploi. Daniel rebondira peut-être. Il y a eu hier une grande table ronde qui concernait l'emploi des personnes handicapées par HappyDV, hein, donc la plateforme ActiveDV. Hein. C'était une table ronde de très grand niveau, hein, qui évoquait ces problèmes-là. Hein. Donc, c'est à l'autre bout, hein, c'est au niveau professionnel. Gabriel l'a un peu évoqué. Donc, voilà, il faut voir. Nous, on peut se situer au niveau de l'utilisateur de base, de ce que nous, associations, sommes capables de produire, des aides aussi dont nous avons besoin pour être opérant dans ces domaines-là. Donc, monde associatif, monde professionnel, le monde institutionnel, les impulsions de l'État, voilà, on a touché quelques aspects, hein, de la question.
Moi, je voulais juste dire un mot par rapport à ce que disent Gabriel et Daniel et Jean-Claude. Je remarque beaucoup de gens qui sont déficients visuels ou non-voyants, mais qui sont même plus jeunes, même dans la tranche d'âge de avant 50 ans, qui ne savent même pas vraiment utiliser un téléphone. Alors que maintenant, les téléphones, ben, ce n'est plus des téléphones. Et donc, ça, c'est aussi un problème, je trouve.
Oui, donc je suis Jacques Allon. Je m'occupe un peu à la fédération. J'enseigne l'utilisation de VoiceOver. Alors, ce que je voulais dire par rapport à ça, je ne veux pas faire de publicité pour Apple, naturellement, mais ce que je veux dire, c'est que le premier iPhone qui est sorti était déjà équipé de VoiceOver. Donc, ce système-là, il était là tout de suite à la base. C'est du natif. Ça fonctionne, ça évolue avec les différentes mises à jour. Et le problème, c'est de faire passer les gens d'un téléphone qui a des touches au tout numérique, hein, c'est-à-dire plus de touches. Voilà. Et le problème est là. C'est l'apprentissage et l'utilisation. Parce que l'outil est formidable. En finalité, un aveugle peut faire ce que fait un voyant sur un iPhone. Et oui, bien sûr, un peu moins vite. Oui, c'est vrai. On n'aura pas la vitesse d'un voyant, mais on arrivera quand même à faire à peu près ce que fait un voyant. Le tout, c'est que l'outil soit maîtrisé, et ça, ça ne se passe pas en 15 jours ou 3 semaines. Moi, j'ai des gens qui maintenant viennent déjà 2 ans, ils font des efforts. Il y en a qui arrivent à maîtriser beaucoup de choses, et il y en a qui plafonnent, après ils ne vont pas plus loin, ça ne va plus. Voilà. Mais aujourd'hui, on arrive déjà à mettre son téléphone au-dessus d'un texte, à se le faire lire. L'autre jour, j'ai eu un mail d'une femme qui participe au cours, qui m'a fait un mail le soir. Elle m'a dit, monsieur Allon, en rentrant, j'avais du courrier. Et j'ai pu lire pour la première fois de ma vie, j'ai pu lire mon courrier.
C'est énorme,
oui. Et ça motive à continuer. C'est une femme de 85 ans.
Donc ça veut dire que les outils existent, quoi.
Oui.
Ils sont variés, ils sont multiples. Voilà. C'est vrai que la pédagogie...
Prends le micro, ce sera plus facile pour la captation.
Oui. Pardon.
Oui, merci. Oui, je voulais dire, les outils existent, hein, ils sont multiples, variés. Leur maîtrise ne se fait pas d'un seul coup, d'un seul. Hein. Et quelques-uns, des associations notamment, œuvrent pour que les personnes puissent atteindre la maîtrise de ces outils. Hein. Ce qui n'est pas tout à fait évident, avec tous les freins qu'on a évoqués un petit peu. Mais bon, là, c'est notre rôle, les associations. Hein. Alors, des fois, on aurait besoin d'être un peu aidé aussi. Parce que là où ça coince, parfois, c'est quand il s'agit de hard. Quand, par exemple, il est difficile pour un formateur aveugle de se déplacer chez les gens, sur leur ordinateur, tout ça. C'est vraiment un problème. Donc, on les fait venir dans les locaux associatifs. Qui ne sont pas toujours équipés comme on le voudrait. Hein. Donc là aussi, on essaie de travailler pour faire évoluer les choses, mais ça ne se fait pas vite. Quoi.
Je peux juste rebondir encore sur ce que tu viens de dire, Jean-Claude. Ah ouais. Là, ce que tu viens de dire, c'est une problématique qui est grave, parce que là, on parle de l'inégalité de traitement sur le territoire. Hein. Toutes les zones qui sont en dehors des grandes zones urbaines, où il n'y a pas de secteur associatif, et évidemment, ces gens sont pénalisés. Parce que pour la DV, se déplacer, c'est vraiment la pierre angulaire. Hein. Quand on n'a personne pour se déplacer et quand on n'a pas l'autonomie pour se déplacer, ben, toutes ces personnes sont un peu laissées pour compte. Et quand on remonte ça au pouvoir public, évidemment, on lève les yeux au ciel, on rousse les épaules, il n'y a pas de solution. Voilà. Et on ne veut surtout pas y mettre les moyens, parce que en y mettant un peu plus de moyens, on pourrait quand même essayer d'approcher un peu et ces personnels, ces membres, ces gens qui sont un peu esselés dans leur coin de campagne. Voilà, c'est important, ça. Voilà.
Alors, je vais rebondir sur ce que vous êtes en train de dire. Donc, je me suis présentée tout à l'heure. Donc, Aurélie Viomé, je travaille pour APF France Handicap. Et moi, mon rôle, en fait, en tant que chargée de projet, là, je suis en train de penser, je suis en train de faire un gros travail de veille et accessibilité technique, accessibilité des logiciels mis en place pour justement savoir exactement où est-ce qu'on en est au niveau technique, logiciel, pour rendre accessible la technique avant le numérique, avant d'avoir un téléphone dans la main ou des choses comme ça. Il faut quand même savoir comment on fait pour l'avoir dans la main, comment on fait pour pouvoir l'utiliser, comment on fait... voilà.
Et, c'est un travail en amont, quoi.
Exactement, un travail de veille, de test aussi, hein, pour voir si ça fonctionne. Et puis, ça ne fonctionne pas non plus avec toutes sortes de déficiences ou toutes sortes d'handicaps. Notamment, donc nous, on a des adhérents dans notre association et j'essaye d'aller, parce que forcément, on ne peut pas se rendre compte tant qu'on n'est pas chez les gens. Donc, en tout cas, pour certains de nos adhérents, j'essaye d'aller chez eux pour voir comment ils utilisent leur ordinateur, quels sont les problèmes d'accessibilité technique et technologique avant l'accessibilité au numérique, à l'ordinateur, ouvrir une boîte mail ou des choses comme ça, pour comprendre et rendre accessible la technologie avec l'outil numérique. Donc, si jamais, on pourra rediscuter tout à l'heure, mais en tout cas, ça sera avec plaisir. Et moi, du coup, on pourra échanger sur le travail de veille que je fais et sur notamment. Et j'avais une question aussi. Est-ce qu'il n'y a que Apple qui met en place des outils pour vous faciliter la vie, ou est-ce que d'autres
Non, bien sûr que non. Il y a, par exemple, Android, un lecteur d'écran qui est parfaitement accessible aussi. Alors, ce qui pose un peu la difficulté, c'est que les téléphones Android, il y a beaucoup de constructeurs et les couches constructeurs font réagir le lecteur d'écran un peu différemment. Et donc, ça déroute un peu l'utilisateur. Donc, l'utilisateur qui n'est pas très geek, il va se trouver souvent bloqué par des petites choses. C'est pour ça que dans le monde du Android, il y en a moins de personnes aveugles qui ont des téléphones adaptés. Mais ça marche très bien. Je me suis pris la peine de le faire il y a 3 ans. C'est des outils qui marchent, mais la prise en main et la maîtrise en est un peu plus complexe que sur iPhone, c'est évident. Voilà.
Oui, non, je voulais rebondir là-dessus, mais Gabriel vient de dire c'est à peu près ce que je voulais dire. À ma connaissance, Apple est le seul qui ait produit un smartphone nativement accessible. Oui. Hein, je ne crois pas qu'il y en ait d'autres. Enfin, je ne suis pas forcément.
Windows Phone l'a fait aussi.
Oui, oui. Okay. Alors moi, j'utilise un autre. J'utilise un autre.
Il n'existe plus malheureusement. Ouais. Voilà.
Moi, j'utilise un autre appareil, qui est un appareil Android, qui s'appelle le Smart Vision, pour ne pas le nommer. Donc, qui fonctionne bien aussi. Mais c'est vrai que c'est un appareil qui a été spécialement conçu pour déficients visuels et pour aveugles par une société qui s'appelle la société Capsys, qui est basée dans le sud de la France. Donc, c'est un fabricant français. Mais comme le dit Gabriel, il faut aussi bien prendre le temps de maîtriser la machine. Hein. Moi, je ne suis pas encore au bout. Hein. Ça fait 3 ans que j'utilise, je ne suis pas au bout des découvertes. Hein. Mais c'est vrai aussi pour iPhone, comme tu disais, Jacques, tout à l'heure. Ce n'est pas en 15 jours que tu maîtrises l'iPhone. Quoi, hein. Après, c'est un choix entre l'iPhone, effectivement, tout est gestuel. Hein, tout est gestuel. Et les appareils Android, pour certains ou pour la plupart, gardent un clavier physique. Et donc, certains peuvent avoir envie de garder un clavier physique. Bon, personnellement, le Smart Vision, par exemple, lui, il y a trois interfaces. Il y a la gestuelle, on peut utiliser la gestuelle. Il y a le clavier physique. Et puis, il y a l'interface vocale, la dictée vocale, la reconnaissance vocale. Non, ce que j'ai devant moi, c'est tout à fait autre chose.
Il est sous Android 6.
Le voilà, c'est ça.
Les fabricants prévoient de sortir
l'an prochain, sans doute à l'été, un nouveau modèle qui tournerait sous Android 11. Et la question que posent beaucoup d'utilisateurs actuellement, il y a un débat, puisqu'on sait que l'appareil va sortir, et la question est de savoir si, une fois que l'appareil sera sorti, on pourra mettre Android à jour. Parce que la version 6, on ne peut pas le faire. Si on le faisait, les aides non-voyants ne fonctionneraient plus correctement. Donc, ils ont conscience de ce problème. Et donc, ils essayent d'avancer. Mais d'autre part, le Smart Vision actuellement fonctionne relativement bien, sauf la recherche Internet qui vraiment n'est pas au point. Mais pour le reste, GPS, téléphone, messagerie, lecture de mail, donc les applications les plus courantes, cela fonctionne relativement bien.
Moi, je veux bien. Oui, je n'ai pas pratiqué ce téléphone. Voilà, moi, j'ai des gens qui ont passé justement de ce téléphone sur Apple. Hein. C'est vrai qu'il faut qu'ils apprennent. Ça change hein, de ne plus avoir de clavier. Hein. Voilà. Mais après, les gens me disent, l'iPhone n'est pas qu'un téléphone, c'est un ordinateur. Hein. Vous pouvez ranger vos fichiers, vous avez un gestionnaire de fichiers, vous pouvez travailler dessus comme sur un ordinateur. Oui.
Oui.
Oui, vous pouvez ranger des fichiers dans le cloud.
Si on a envie, oui. On oui. a envie d'être dans le cloud, hein, c'est une autre chose, mais je n'y serai pas, mais.
Oui.
Il faut garder assez de données sur soi. Hein.
Au-delà de tout ça, en fait, moi, je suis également utilisateur Android et j'ai un téléphone grand public, tout ce qu'il y a de plus normal, qui permet de faire énormément de choses. Aussi, une nouvelle accessibilité. Une fois qu'on le maîtrise, on a accès à beaucoup plus d'applications. Donc, toutes les applications grand public sont utilisables aussi. Au niveau PC, il faut savoir que Microsoft, pour ne pas le nommer, fait le boulot aussi actuellement. Donc, les systèmes d'exploitation Windows, toute la suite Office, tout ça, c'est parfaitement accessible. Ça nécessite bien sûr un petit temps d'apprentissage. Mais une fois qu'on le maîtrise, moi, je peux utiliser Excel, Word comme n'importe qui, sans aucun problème. Pareil pour Teams, pour Outlook. Tout ça, ça ne pose plus aucun problème. Par contre, ce qui est frustrant, c'est de savoir maîtriser. Une fois qu'on est arrivé à maîtriser que ce soit autant le smartphone que l'ordinateur, de se retrouver devant des applis ou des sites qui ne sont pas accessibles. Ça, c'est frustrant.
Le chiffre qui a été avancé tout à l'heure, 13% de sites accessibles, ça vous donne l'ampleur de la frustration, on va dire. Mais je dirais que, à travers je suis administrateur à la Fédération des aveugles de France, qui est notamment membre de la CFPSA. qui essaye de travailler pour l'accessibilité mais à niveau national, mais également européen. Et je pense que l'avenir pour l'accessibilité des personnes DV, elle passera par les directives européennes. Les directives européennes sont bien plus favorables justement à l'accessibilité. Donc s'il y a une directive qui sort et si après le droit des pays se met au niveau de cette directive, on avance. Et je pense que le salut viendra de là. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment pousser nos représentants nationaux pour qu'ils aillent au charbon. Ils y vont. Parce que, je veux dire, il y a de vouloir faire de l'accessibilité au bout de la chaîne, je dirais que ça n'a pas beaucoup de sens. De former les gens sur des outils, oui. Mais de vouloir faire remonter les choses par le bas, ça n'a pas beaucoup de sens. Il faut que ce soit quelque chose de vertical. Il faut que ce soit quelque chose qui est décidé par les États. Et là, pour le coup, la communauté européenne, elle joue vraiment son rôle de fédérateur. Elle fait avancer les choses. Et je mets beaucoup d'espoir dans ces travaux-là. Et il y a déjà beaucoup de choses qui ont bougé, notamment sur les interfaces et les outils mobiles et des choses comme ça, qui ont été inclus dans la directive européenne. Maintenant, la deuxième phase, ça va être l'interface, par exemple, des électroménagers, par exemple. Si on inclut ça, on arrivera quand même à une accessibilité des outils de tous les jours. C'est vrai que ça devient un sacré problème pour le handicap visuel d'avoir un outil de consommation courante qui ne soit pas digital, où il n'y a pas de clavier tactile. Et il faut vraiment qu'à ce niveau-là, qu'on pousse nos grandes fédérations nationales pour qu'elles fassent leur job, quoi. Voilà.
Pour qu'on pilote, par exemple, un lave-vaisselle avec son téléphone.
Alors c'est oui ou non. Je dirais que c'est pas la chose la plus simple.
Ou à la voix.
Oui.
Oui, mais ça, je pense que à la voix, ça va se développer sans même. Que les fabricants pensent aux aveugles.
Par exemple,
c'est une demande de monsieur et madame tout le monde.
Alors évidemment, ça existe déjà. Par exemple, Samsung a fait des lave-linge et machine et sèche-linge, par exemple. Vous mettez une application sur votre Android et vous pouvez le piloter directement. Mais dans la vie de tous les jours, c'est pas forcément pratique de sortir son smartphone à tous les niveaux, quoi. C'est déjà une bonne avancée, parce que de pouvoir avoir du matériel haut de gamme qui est accessible à l'espace culture et loisirs, là, les fours qu'on a sur notre cuisine connectée, ils seront accessibles à travers une application par Alexa. Ils seront pilotables à la voix par Alexa, mais ils seront également, et on pourra mettre des skis avec Alexa pour mettre des raccourcis pour faciliter l'usage. Donc, ça va se faire, mais cette approche n'est pas accessible à tout le monde. C'est ça le problème. Les personnes qui ne sont pas très familiarisées avec les nouvelles technologies, avec tout ce qui est digital, elles sont complètement larguées. Il faut le savoir, quoi. Ouais, il faut tu veux prendre la parole,
papa ? Oui, et puis il faut savoir qu'un four accessible, par exemple, dans la même marque, entre le fait qu'il soit accessible, pilotable, donc en smartphone ou à la voix, et le modèle qui n'a pas cette option, il y a 500 euros d'écart.
Oui, bien sûr.
Minimum.
Encore 500 euros, c'est le minimum.
Ouais. Hein. Ouais. Tout à fait exactement la même version.
C'est toujours ça. Il n'y a personne d'autre qui souhaite prendre la parole sur ce sujet ?
Oui, je voulais dire que dans l'application Handicap Zéro, il y avait une bibliothèque d'appareils ménagers où il notait l'accessibilité pour nous les non-voyants. Et ça a été enlevé. Oui, ça n'y est plus. Je trouve ça dommage. Oui.
Oui, effectivement, pour revenir à tout ce qui est tactile, ça devient de plus en plus galère de trouver des appareils électroménagers où il n'y a pas des boutons à effleurement, des espèces d'interface tactile. Il y a vraiment une mode en ce moment de vouloir supprimer les boutons et trouver par exemple une plaque de cuisson avec des boutons, un écran d'ordinateur avec des boutons. Tout maintenant c'est devenu d'un stressant pour essayer de trouver l'appareil qui est encore utilisable dans tout ce qui est proposé.
Et sans parler, par exemple, des interphones des immeubles qui sont tout tactiles. Et alors qu'il y a une préconisation qui a été faite au niveau national, justement pour qu'il y ait obligatoirement un clavier à touche téléphonique qui est adjoint à ce dispositif pour pouvoir composer au moins un code. Oui. Mais la réglementation est rarement respectée. Et ça, c'est un autre problème, quoi. Et ça nous touche au quotidien, quand même. Hein. Voilà.
Oui, et pour revenir à la réglementation, le problème, c'est qu'il y a des lois, il y a plein de choses, mais comme ce n'est pas vraiment obligatoire, il y a toujours des échappatoires, il y a toujours des moyens, des recours. Ou des
il
n'y
a pas de sanctions, surtout.
Voilà, il n'y a pas de sanctions. Donc, il y a toujours moyen de passer entre les mailles. Et du coup, c'est utilisé, tout le monde en profite pour...
Parce que là, par exemple, sur les sociétés à plus de 250 millions d'euros, qu'est-ce qu'ils ont comme obligation? C'est de faire quelque chose de déclaratif et de proposer un échéancier pour adapter leur site. Mais c'est catchy, quoi, on va dire.
Voilà.
C'est juste qu'ils écrivent que le site n'est pas accessible.
Ouais, il faut qu'ils proposent quand même un échéancier de mise en accessibilité. Voilà.
On a bien lu il y a quelque temps des articles dans les revues spécialisées qui expliquaient que le site du ministère des Handicapés était très peu accessible, hein, par exemple. Oui. Je pense que vous l'avez lu aussi. Je crois que c'est le CFPSA qui a fait son enquête. Hein, et c'est l'un des moins accessibles. Hein, et le ministère lui-même tourne autour du pot, ne veut pas avancer, enfin, trouve des excuses. Donc il n'y a pas de volonté au niveau gouvernemental, sauf en parole, de faire quelque chose.
Oui, les sites publics ne sont vraiment pas le meilleur exemple dans le domaine.
Non, même au niveau malvoyant, ils ne sont pas non plus. Hein. C'est pas.
Quand on voit le rapport qu'a publié le Défenseur des droits il y a 2 ans, il y a à peu près 12 millions de personnes qui sont exclues du numérique, du digital en France. Là, la dernière en date, les 200 fonctionnalités des sites dématérialisés qui devaient être mis en accessibilité à 80%, Monsieur O a décidé d'un coup de trait, plume magique, de diviser cette mise en accessibilité par 2. Donc, au lieu d'avoir 80% d'accessibilité dans 2 ans, on n'en aura que 40. Voilà. Et là, ce sont quand même des choses qui touchent à la vie de tout le monde. D'aller sur un état civil pour le renouvellement d'une carte, pour faire une saisine pour un juge et des choses comme ça. Des choses très, très concrètes. Hein. Donc, ces choses-là, on va être obligés. On nous rend de plus en plus dépendants. Le numérique avance, mais ça n'avance pas pour nous. Donc, il y a quand même là une inégalité de traitement pour le citoyen à ce niveau-là, quoi. Parce que de faire de la dématérialisation à marche forcée, ça peut être bien pour la planète, on est d'accord. Mais il ne faut pas oublier ces 10 ou 12 millions de personnes. Et ce n'est pas pour rien que des grandes associations nationales essayent justement de faire... notamment comment on a les je me souviens pas du nom de cette association et qui fait des qui a fait à Paris et en province des ateliers de
c'est la fracture numérique
c'est une association on les voit, ils sont souvent en uniforme, les gens de cette association, comment ils s'appellent encore? Pardon ?
Emmaüs Connect.
Voilà. Notamment, ils font des ateliers justement pour former des gens, par exemple, à l'utilisation des emails, pour les aider aussi dans leur démarche administrative et des choses comme ça. Parce que c'est vraiment d'être dépendant comme ça du numérique et de ne pas pouvoir s'en servir, c'est grave, quoi, à la limite.
Je vais répondre un peu avec sarcasme par rapport à Cédric O. Ce qu'il a mis en place, c'est Aidant Connect avec France Connect. C'est-à-dire que du coup, c'est faire à la place de. Si vous n'avez pas, avec 2020, tout numérique, zéro papier, enfin voilà, l'engagement politique qui a été mis en place, Edan Connect sert à faire à la place de, donc faire à la place de quelqu'un qui ne peut pas avoir accès au site internet. Donc c'est, je pense que c'est un peu sa réponse, voilà. Et je vais donner la parole à Sam qui a travaillé du coup à Emmaüs Connect et en tant que conseillère numérique. Et je pense qu'elle sera complètement à même de compléter ce que je dis.
Oui, alors juste une petite précision. En fait, Edan Connect, c'est un des dispositifs qui va être déployé. Nous, en fait, on fait partie des conseillers numériques. Donc, on va retrouver effectivement les mêmes problématiques par rapport à l'accessibilité numérique. Là. C'est comment on accompagne vers l'autonomie. Parce qu'effectivement, vous l'avez dit, c'est 13 millions de personnes qui sont en difficulté avec le numérique. Et les conseillers là, qui vont être déployés au niveau national, donc il y en a 4000 au niveau du territoire de l'Eurométropole. Ici, il y en a 20 dans différentes structures. Pas uniquement... donc moi, je suis à la ville, mais il y en a dans les centres socioculturels, il y en a dans d'autres associations type AMSED ou... Humanis et Maïs Connect aussi vont en accueillir l'APF. Voilà, et donc par rapport à ça, c'était aussi pour vous dire que la thématique, en fait, elle l'intéresse et elle commence quand même à apprendre, ou en tout cas, on l'aborde. Parce que cette semaine, il y a eu Numérique en commun. C'est toute une série de webinaires pour ouvrir un peu les thématiques par rapport justement à l'inclusion numérique. Et il y avait un webinaire que j'ai suivi, c'était animé avec les dévalideuses. Et il y avait Abdulact aussi qui faisait une personne qui représentait cette association-là. Et celle-là, en fait, elle a pour objectif d'avoir un observatoire qui permettent de voir où en sont les services publics au niveau de l'accessibilité numérique. Donc ça, effectivement, je vous l'accorde, apparemment, c'était les chiffres que vous avez donnés, c'était moins, un peu plus de 10%, quoi. Ouais. Et donc, ouais. Oui.
Non, je voulais simplement dire une chose, mais ça a déjà été sous-entendu. Les non-voyants ont de gros problèmes d'accessibilité, mais même les voyants... Oui, sur les sites administratifs, ils galèrent. Hein. Oui. Moi, c'est quand j'essaye de me faire aider par mon épouse, qui fait de l'informatique, mais comme moi, c'est-à-dire comme utilisatrice, ben, on galère tous les deux. Hein. Donc, si on rendait les sites plus accessibles aux non-voyants, souvent, ça aiderait aussi les autres.
Hein. Oui.
Parce que le vocabulaire utilisé est peu clair. Hein. J'ai déjà eu à remplir des formulaires au niveau des impôts. On me parlait de choses dont je ne savais pas ce que c'était. Alors, il faut d'abord aller dans la fac pour essayer de comprendre. Et si on a compris, ce qui n'est pas certain, il faut revenir sur le site. Il faudrait qu'ils parlent comme tout le monde, ces gens, pour commencer. Hein. Oui.
Facile à lire. Et puis même le graphique. Par exemple, remplir une case du gris clair sur du gris clair, pour moi, c'est galère, quoi.
Oui, mais c'est vrai que du coup, je suis totalement d'accord avec vous parce que mais il y a des actions. Je voulais vous dire qu'il y avait des actions qui se mettaient en place. Moi, concrètement, en fait, j'accompagne des personnes dans les mairies de quartier à réaliser leurs démarches en ligne. Donc et puis effectivement, j'ai animé pendant 2 ans aussi des ateliers de compétences numériques où on partait de la base, qui était effectivement apprendre à utiliser un clavier, une souris, se créer sa boîte mail, parce qu'en fait, on se rend compte maintenant que le numérique est arrivé effectivement comme ça dans nos vies, mais qu'on n'a jamais été accompagné là-dedans. Et maintenant, la question, elle est là, et on se dit, bah oui, la médiation numérique, c'est hyper important.
Il y a pas mal de gens qui savent à peine lire.
Oui.
Toutes ces catégories font permis justement des exclus du numérique. Et par exemple, là, vous venez des, avec votre expérience que vous avez dans les quartiers, apprendre le clavier, utilisation de la souris. C'est un des plus grands freins que Jean-Claude et moi, lors de nos cours bénévoles pour nos adhérents, nous avons identifié ça. L'apprentissage du clavier pour des personnes qui ne le connaissent pas ou qui ont perdu la vue tardivement, c'est vraiment un vrai souci. Pour nous, de trouver des bénévoles, c'est assez ingrat comme job d'apprendre, de faire des heures, de faire des gammes avec des gens. Et si vous ne le faites pas avec eux, comme chez les scolaires, ils ne vont pas le faire chez eux tout seuls. Voilà. Et donc, c'est le premier frein qu'on a identifié pour l'apprentissage de l'informatique adaptée. Hein. Si les personnes aveugles, si elles ne savent pas se servir d'un clavier, elles ne pourront jamais faire de se servir d'un outil adapté, quoi. Voilà.
J'avais entendu une petite histoire comme ça sur le clavier où, alors moi je m'en étais pas rendu compte, hein, étant donné que je vois, et il y a deux petits picots sur le clavier, et en fait une fois que la personne a réussi à identifier les deux touches où il y a le picot, elle arrive d'elle-même à utiliser la totalité du clavier.
Ça c'est juste pour le positionnement des doigts, c'est juste le début, ça. Il faut savoir que sur la première ligne il y a AZERTY en haut, et il faut savoir que sur la première, ça c'est juste pour le positionnement des mains de façon qu'on puisse faire les différentes touches avec les 10 doigts. C'est juste la technique, c'est juste un repère. Mais avec ça, vous n'avez rien fait. Hein. Avec ça, vous n'avez rien fait. Et tout à l'heure, je cherchais le nom de cette association qui œuvre beaucoup dans le numérique. C'est Emmaüs, bien sûr, le fait. Mais j'avais une autre en tête, c'est l'Armée du Salut. L'Armée du Salut fait un job énorme. Ils ont commencé sur Paris. Ils le font maintenant en région. Ils font un réel travail aussi. Et tout ça, ça tire dans le bon sens. Mais le besoin, il est immense. Il faut le savoir, quoi.
Oui, voilà. Il y a des clics aussi qui aident les gens. Ça, pour l'apprentissage du clavier, ça, c'est pour les claviers fixes, sans parler des claviers des portables, où chaque marque de portable va mettre ses touches où il veut. Et honnêtement, quand je regarde dans les magasins, personnellement, je n'ai trouvé aucun ordinateur portable avec un clavier qui me convient et avec lequel je trouve agréable de taper dessus, enfin de l'utiliser.
Dans les claviers physiques, dans certains claviers physiques, l'ergonomie est très minimaliste. Hein. Si vous avez par exemple les touches de flèche que nous on utilise vraiment pour les raccourcis clavier tout le temps, si ces touches ne sont pas, elles sont pas bien identifiables au premier toucher, je veux dire, ça ralentit notre vitesse d'exécution. Ou alors on est obligé de les marquer. Voilà. C'est vrai que certaines marques, je ne vais pas la nommer, Toshiba, dans le temps, ils faisaient des claviers avec des touches très, très facilement repérables. Les claviers étaient moins ramassés. Maintenant, la mode, c'est de ramasser des claviers et de réduire les touches. Et ça, ça ne fait pas notre affaire, hein, franchement.
Il n'y a plus de clavier numérique.
Ouais. Qui veut le micro ?
Oui, je vais dire quelque chose. Ensuite, dans le tout numérique, il y a aussi trois fonctions de clavier où on peut, suivant la dextérité qu'on a, on peut utiliser, par exemple, la première manière qui est de glisser le doigt. Il vous dit chaque fois où vous avez le doigt, sur quelle lettre. Et quand vous êtes sur la bonne lettre, et vous levez le doigt. Et alors, ça prend cette lettre. Ensuite, vous avez une autre solution. Vous promenez votre doigt sur le clavier. Vous entendez la bonne lettre, vous validez avec un autre doigt, c'est-à-dire vous faites un deuxième tap. Et ensuite, vous avez la saisie normale pour les voyants. Donc, pour quelqu'un qui voit mal ou qui est aveugle, il peut tout à fait saisir du texte.
Beaucoup d'entraînement.
Voilà, beaucoup d'entraînement, c'est vrai.
D'un point de vue personnel, j'utilise assez bien le tactile pour écrire. Mais je dois dire, ça m'embête, quoi. Parce que je, à mon goût, je ne vais pas assez vite. Donc, ce que je fais souvent, j'ai un petit clavier Bluetooth très ramassé qui pèse 70 grammes. Et quand j'ai des choses à saisir, parce que la reconnaissance vocale, elle est bien, mais elle fait des fautes. Et pour mon image, j'aimerais quand même, parce que les valides qui lisent ça, ils disent « purée, mais il fait plein de fautes ». Donc, pour essayer de soigner mon image, j'essaie quand même de temps en temps faire des mails ou même des publications, des posts avec un clavier pour justement pas faire des fautes d'orthographe ou de syntaxe, quoi. Mais ça oblige à avoir un matériel supplémentaire. Oui. Voilà.
Ça va évoluer, ça.
Mais ça, ce que j'ai, ouais. Parce que le connecteur Bluetooth avec le
smartphone. Oui.
C'était juste pour commenter. J'ai devant moi un tout petit bloc-notes braille avec un clavier braille et une plage braille de 12 caractères. Et je peux le connecter en Bluetooth avec un smartphone. Et je peux, ce que disait Gabriel, je peux taper à partir du clavier. Là, je peux taper un SMS, je peux taper un mail. Voilà, je peux taper tout ça.
C'est quoi comme marque?
C'est l'ESIS 12 de chez Eurobraille. Il se met dans la poche, mais c'est quand même un truc que quand bon, il est vieux maintenant, hein, il est comme moi, il est très vieux, mais je crois que quand il a été mis en vente au début, c'est quand même un truc qui coûte près de 2000 euros, hein, cet appareil-là, hein, donc alors que c'est un bloc-notes de très basique, hein, c'est basique de basique, hein, mais
c'est le prix d'un Mac, super Mac,
voilà. Donc chaque fois qu'on a ces appareils-là, en plus, voilà, il faut être brailliste. Tu as raison, voilà. Il faut être brailliste, oui.
Parce qu'il y a peut-être un peu de gens qui sont braillistes. Oui.
Et c'est Jean-Claude Beuglin. Je souhaiterais rebondir là, à ce stade de la discussion. Il m'apparaît une chose. Là, on est en train de parler des outils, de l'Easy Braille, d'iPhone, etc. On ne va pas opposer un outil à l'autre. Hein. C'est une richesse d'avoir effectivement plein d'outils. Les uns et les autres vont s'adapter à tel outil ou à tel autre. C'est pas notre propos. Simplement, c'est vrai que cette multiplicité des outils nous impose, au niveau de la formation, d'avoir des ressources variées. Hein. Là, nous avons Jacques pour l'iPhone. Gabriel et moi, on touche pas mal NVDA. Donc voilà. Mais ce qui m'apparaissait à ce stade de la discussion, là, nous sommes là, nous utilisateurs. Formateur bénévole lambda de base, mais j'ai remarqué aussi qu'il y a parmi nous des personnes qui ont ce souci de l'accessibilité numérique, qui interviennent déjà dans d'autres associations ou dans des institutions. Je suis en train de me demander si, pour poursuivre au-delà de la séance d'aujourd'hui, si nous n'aurions pas intérêt à unir parfois nos efforts, nous, formateurs de base, vous, institutionnels, détachés auprès d'associations, je pense que ce serait une richesse et qu'on pourrait aller ensemble plus loin, peut-être, je ne sais pas. C'est une suggestion. Si quelqu'un veut rebondir là-dessus.
Oui, moi. Donc, je suis marchand entre eux. Hein, en gros, je suis ingénieur à l'Université de Strasbourg. Et bon, déjà, merci pour tous ces témoignages de frustration d'utilisateurs. Moi, je vais vous faire part de mes frustrations d'ingénieur et éventuellement d'une ou deux perspectives et puis pourquoi pas de lueur d'espoir par rapport à l'accessibilité. Par contre, qui malheureusement va à l'encontre de propos qui ont été tenus. Donc, en gros, moi, je suis pas lié à la mission handicap de l'université. Je suis vraiment un ingénieur lambda. J'ai aidé au développement des logiciels qui sont utilisés à l'Université de Strasbourg. Et j'ai participé il y a quelques années à une série de formations pour les programmeurs qui étaient censés implémenter l'accessibilité sur les sites web de l'Université de Strasbourg. Après cette formation, il ne s'est rien passé, absolument rien. Et je vais vous expliquer pourquoi. L'ingénierie numérique, de manière générale, enfin l'industrie de manière générale, aujourd'hui fonctionne avec des composants qui sont prêts à l'emploi. Plus personne n'a le temps, plus personne, à part de quelques grosses compagnies, on parle du GAFAM, on parle de Google, on parle de Microsoft, On parle de le troisième Apple, voilà, qui visiblement lui a de bien. Pour le reste de l'informatique, la plupart des gens n'ont pas le temps de descendre assez profond dans le fonctionnement des composants, que ce qu'ils soient matériels ou logiciels, pour pouvoir y implémenter leur propre volonté. On est devenus des assembleurs. Et on a en plus les contraintes de temps qui vont avec. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous allez demander à quelqu'un qui monte des meubles IKEA de faire de l'informatique, de faire un meuble à l'ancienne en prenant les exigences de l'utilisateur, il va vous dire, moi, je monte mon meuble en 10 minutes, mais c'est le meuble que j'aurais déballé, quoi. Donc ça, il faut comprendre que c'est vrai à l'université de Strasbourg, mais c'est à peu près vrai dans toute l'industrie de l'informatique. On est des assembleurs, d'accord ? Et là, pour le coup, quel que soit notre niveau de sensibilité à vos problématiques, on n'y arrivera pas. On n'est pas formé pour et on n'a pas de temps pour ça. La deuxième chose aussi, c'est que quand on parle d'accessibilité, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert à Strasbourg, Alors, je vais utiliser un autre mot qui, pour moi, est plus englobant, mais vous reconnaîtrez probablement l'idée. C'est simplement la notion d'inclusion. C'est de dire que n'importe qui dans cette société a les mêmes droits et à l'accès à l'information et aux services que tous les autres. Et du coup, là, on arrive dans un gros problème. Une personne citait, par exemple, l'idée qu'un bâtiment, une fois qu'il est correctement conçu, pourrait être accessible. C'est beaucoup plus simple ensuite de le maintenir. Sauf que je crois, je ne connais pas les problèmes de l'accessibilité dans le BTP, mais par contre, moi en tant qu'informaticien, je constate que quelqu'un qui a des problèmes psychomoteurs est en situation de handicap. Un déficient visuel est en situation de handicap. Une personne qui n'a pas la culture française et qui a du mal. Alors, quelqu'un le disait, et j'ai trouvé ça génial, parce que là, on peut. C'est validiste. On pourrait croire qu'il y a une approche validiste derrière, mais non. Quelqu'un qui parle mal le français, simplement parce qu'il est déficient mental ou parce qu'il a du problème avec la langue, là aussi, il y a une situation de handicap. Pour l'informatique, il y a d'autres considérations qui arrivent aujourd'hui, qui est la maintenabilité de ces applications et la sécurité de ces applications. Donc on a énormément de choses qui rentrent aujourd'hui dans le spectre des programmeurs qui ne sont ni formés ni adaptés à ça. Et donc du coup, on se retrouve sans... on comprend bien vos aspirations, mais on n'a pas le temps d'y répondre. Alors, quelqu'un l'a dit avant, hein, c'est politique. Mais politique comment ? Qui aujourd'hui est capable d'aller taper du poing chez les GAFAM, par exemple? Soyons honnêtes, ils peuvent se permettre de rire au nez de notre fisc. Je ne vois pas comment une communauté handicapée, quelle qu'elle soit, puisse avoir le moindre pouvoir par rapport à eux. Ah bon ? Allons. Qui fait les systèmes d'exploitation ? Google, Microsoft, Apple. Qui fait les navigateurs ? Google.
Ça, c'est les systèmes d'exploitation.
Oui.
Il y a des logiciels qui fonctionnent.
Oui, qui fonctionnent, comme je vous disais, avec des briques que nous, on exploite, qui viennent du système d'exploitation.
Si je comprends bien, vous êtes en train de nous dire qu'on ne pourra rien faire, c'est ça ?
Non, non, je n'ai pas dit qu'on ne peut rien faire. J'ai dit que ça avance lentement, mais ce n'est pas de la volonté des ingénieurs. C'est ça que je suis en train de dire. C'est que ça se passe à un niveau beaucoup plus haut.
Le micro. Ouais. Je peux vous citer juste un exemple.
Oui.
Quand vous intégrez une photo dans une page Internet,
oui.
Quand le lecteur d'écran passe dessus, il va vous lire un numéro et des chiffres pendant 15 ou 20 secondes. Parce que il aurait suffi de changer le nom de cette photo et de par exemple utiliser comme titre de cette photo une simple description en quelques mots. Ça fait que quand on passe sur la photo, au lieu qu'il va lire un numéro de 20 chiffres, il va décrire la photo succinctement. Mais et ça, c'est quand même pas très compliqué à faire.
C'est-à-dire
que certains liens sont tellement mal légendés pour les non-voyants qu'on ne les comprend pas. On a une série de chiffres et de lettres, effectivement, complètement ésotériques, qui ne veulent rien dire. Ça, c'est très courant. Hein.
Alors, c'est quoi, alors c'est, monsieur, c'est quoi votre solution en tant qu'ingénieur pour pouvoir progresser? C'est quoi votre solution?
Du coup, je déroule mon propos. Alors, pour ce qui est, par exemple, typiquement, monsieur parlait des labels qui n'ont aucun sens. Là, en l'occurrence, c'est tout simplement parce que les gens utilisent ce qu'on appelle des content management systems, donc des CMS. C'est des choses qui permettent, enfin, c'est des outils qui permettent de faire des sites web extrêmement rapidement, enfin, normalement. Et manque de bol, les gens qui ont produit ces outils, ils n'ont pas du tout pensé à l'accessibilité.
Ils n'ont pas intégré le RGA.
Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, donc là, on se retrouve sur... En plus, pour le coup, tout ce que je vais dire, vous l'avez déjà plus ou moins exprimé. Là, pour le coup, on a un autre problème qui est... Nous, on se retrouve avec des outils qui ne sont pas adaptés à l'accessibilité, mais en plus, il faudrait se former et les corriger pour pouvoir les rendre accessibles. Et ça, pour le coup, on a déjà du mal à faire notre boulot normal. Et malheureusement, j'entends bien que quand je dis normal, il y a énormément de validisme derrière ça. On a déjà du mal à rendre en temps et en heure nos boulots normaux. Malheureusement, et en plus, comme je vous disais, malheureusement, la prise en compte de différents handicaps, c'est extrêmement prenant parce qu'il y a énormément de handicaps possibles et à chaque fois des stratégies différentes à mettre en place. Donc voilà, c'est compliqué de répondre. Et effectivement, le volet, il est pas au niveau de l'ingénieur, il n'est pas technique, il est politique, je crois. La deuxième chose aussi, c'est que bien souvent, on achète des logiciels prêts à l'emploi. C'est-à-dire, on va vers des éditeurs et on leur demande, on achète une suite logicielle. Eux, ils ont exactement cette même contrainte. C'est-à-dire, en gros, ils nous disent, nous, on n'a malheureusement pas le temps de s'intéresser à ça parce qu'on a des contraintes économiques qui font que si on s'intéresse à des cas isolés, enfin, si on sort de notre cœur de cible, si on sort de notre cœur de ventre, on est mort. La R&D va nous pomper et on va mourir. Donc, il y a des boîtes qui vous disent... Nous, on n'a pas le temps de faire de l'accessibilité, tout simplement. Pas recevable, mais dans un...
Il faudrait le mettre directement dans le cahier des charges.
Allez voir les chefs d'entreprise. Allez voir ces éditeurs. Je veux dire, eux, ils vont vous dire, moi, j'ai 50 développeurs derrière moi, je ne peux pas leur permettre de dire que je vais couler le business simplement parce que j'ai des...
Si vous faites un marché public, par exemple, pour un logiciel, pourquoi ne pas mettre directement dans le cahier des charges la demande d'accessibilité?
Moi, en fait, je suis en train de parler de la réalité que j'ai constatée. Et pour le coup, je comprends très bien que des petites boîtes ne puissent pas se permettre ça. Mais je suis d'accord avec vous. C'est pas normal. Maintenant, le truc, c'est l'entrepreneur, lui aussi, il fait ses comptes et il se dira probablement c'est pas normal. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est pas une volonté. C'est pas une idée validiste. C'est des gens qui vont simplement vous dire j'ai fait un calcul par rapport au fait que moi je dois être rentable. C'est aussi simple que ça.
Je veux dire, la notion d'intégration de l'accessibilité au départ n'est pas forcément plus chère et ça a été prouvé. Donc c'est souvent par méconnaissance que les éditeurs de logiciels n'intègrent pas l'accessibilité. C'est souvent cette raison-là. Mais ça ne revient pas. L'argument n'est pas recevable, que c'est plus cher, parce qu'on fait de l'accessibilité.
Peut-être un peu plus cher, mais pas beaucoup.
Non.
Moi, je veux bien reconnaître que c'est peut-être un peu plus cher, mais ça ne met pas en cause la rentabilité de l'entreprise.
Vous pensez réellement que la directive européenne sur l'accessibilité numérique aurait été votée avec tout le lobbying des grandes entreprises? Si ça avait été le cas, ce que vous dites là, c'est pas possible, quoi.
J'attends juste. Je réponds. Ouais.
A réussi à mettre Voice Over dans ses téléphones et tout ce que met Apple en ligne, c'est accessible. Microsoft fait le boulot. Ils savent le faire.
Est-ce que vous vous rendez compte des moyens des GAFAM aujourd'hui par rapport au reste du secteur informatique? c'est disproportionné. Je veux dire, c'est des gens qui brassent beaucoup plus d'argent maintenant que l'industrie du pétrole, par exemple.
Ça, on est tout à fait d'accord que les GAFA ont une puissance de frappe économique importante. Et elles ont même plus de poids que certains pouvoirs politiques, on le sait. Et on essaie de les contraindre en leur faisant payer quelques amendes de quelques millions d'euros. Ils s'en foutent, c'est pas leur problème, ça. Voilà. Mais je veux dire, et dans une communauté européenne, si on arrivait à s'entendre sur les fondamentaux, on ferait bouger les choses. Mais tel que c'est parti, c'est vrai que c'est pas gagné. Ça, je vous l'accorde quand même. Mais de faire de l'accessibilité nativement, ça revient pas plus cher. Ça a été évalué hein, par des gens très sérieux. Hein. Maintenant, c'est vrai que si on crée à la base des kits qui sont pas accessibles, des portails ou des blogs qui gèrent qui génèrent des pages non accessibles derrière, là, on n'est pas sorti de l'auberge.
Oui. Ça, c'est clair. Je voulais juste te dire deux petites choses. J'ai l'impression que dans ce que tu as dit, il y a quand même quelque chose de contradictoire. Parce que d'un côté, tu dis on achète des logiciels déjà faits et ce sont les grands GAFAM qui ne peuvent pas gérer ça. Et en même temps, visiblement, c'est eux qui ont les moyens de faire l'effort et qui le font dans un certain nombre de cas. Et je ne suis pas d'accord que c'est impuissant parce qu'on voit bien quand même que les grandes entreprises sont très exposées médiatiquement, elles doivent au moins paraître faire quelque chose. Et la deuxième chose, c'est que j'aimerais bien que tu me cites un CMS dans lequel on ne peut pas remplir le champ alt d'une image. Et j'en connais pas.
Ok. Alors, en l'occurrence, tu dis, il n'y a pas de contradiction. Il y a simplement ce qui se passe, c'est que d'un côté, il y a les GAFAM qui fournissent aujourd'hui les infrastructures, enfin, on va dire les logiciels de base, sur lesquels d'autres vont se greffer. Alors, je suis d'accord sur le fait que les alt, par exemple, il faut les renseigner, ok ? Est-ce que c'est dit dans les écoles ? Est-ce que les... Non, mais oui. Moi, ce qui se passe, on a déjà du mal à recruter des ingénieurs compétents sur les stacks logiciels, on va dire. Alors, j'ai utilisé le terme validisme, mais du coup, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas, ensuite, il faudrait énormément d'expertise pour pouvoir mettre en place toutes ces démarches. Et en l'occurrence, si vous allez voir les services informatiques, en tout cas dans le monde universitaire, ben, on n'a juste pas assez de bras.
Tu voulais parler, Anna. On peut pas entendre ça comme une excuse pour ne pas avancer sur l'accessibilité. C'est pas possible. Ça va à l'encontre de toutes les politiques qui essayent de mettre l'accessibilité numérique comme une problématique, une cause nationale. Si on nous dit qu'il n'y a pas assez de bras, qu'on ne pourra rien faire, ça va à l'encontre des dispositifs législatifs et européens.
Moi, j'ai l'impression qu'il y a des contradictions partout. Bon, je prends peut-être mon cas comme exemple, ce n'est peut-être pas représentatif, mais vous dites qu'on a du mal à embaucher des gens performants sur le sujet. Mais personnellement, j'ai essayé de trouver un emploi dans l'informatique. Les entreprises n'ont pas voulu de moi. Les formations n'ont pas voulu de moi non plus. J'ai proposé de faire de l'alternance à des entreprises en leur demandant de quoi elles avaient besoin. Ils m'ont envoyé bouler. Je ne comprends pas comment d'un côté on peut dire il n'y a personne, on n'arrive pas à recruter des gens. Et d'un autre côté, il y a des personnes qui cherchent des emplois et qui ont des capacités et on n'en veut pas.
En tous les cas, moi, je peux vous dire, j'ai été longtemps à la commission d'accessibilité de la SNCF. J'ai travaillé avec des ingénieurs de la SNCF. Quand ils ont sorti des applications ou des nouveaux outils, on était un groupe de personnes DV qui testions leurs produits. On leur faisait remonter tout de suite la qualité d'usage. C'était du producteur au consommateur, si j'ose dire. Et on a fait des académatons d'une journée ou deux où les ingénieurs avaient en tête l'accessibilité nativement, ce qu'il fallait mettre dedans pour rendre leur outil accessible. Et ils ont très bien pu le faire. Sur certains produits, certaines applications, ça a été fait en deux jours. C'était un challenge que beaucoup d'ingénieurs ont relevé, mais ils étaient sensibilisés au départ. Et on leur a dit qu'on ne fera rien sans que ce produit final soit accessible, même si il peut être perfectible après. Les solutions, elles existent. Je pense que c'est souvent la volonté et la sensibilité de base qui n'existent pas. C'est ça le problème.
Il y a un manque de volonté politique, c'est évident. Mais justement, moi, j'étais en train de vous dire que la plupart des groupes de R&D ont le problème de ne pas avoir assez de moyens pour faire déjà leur travail quotidien et qui malheureusement ne tient pas en compte. J'étais pas en train de dire que le manque de volonté politique. Je suis pas en train de mettre une croix là-dessus. Je dis que du coup nous, on peut difficilement faire. Et une des raisons aussi, comme je le disais, c'était les outils qu'on utilise qui ne sont à la base pas adaptés. Le manque de formation, ça c'est quelque chose qui voilà. Je vous parlais de l'acquisition logicielle. Bon ben, visiblement vous estimez que c'est pas normal. On n'a pas dit qu'on estimait que c'était normal. J'ai pas dit ça. J'ai bien dit que c'était une logique qui était validiste, mais c'est une logique qui répond aux contraintes économiques qui existent dans ce pays, tout simplement. Si vous allez voir un ingénieur et vous lui dites, ben, en fait, on va augmenter les prix pour mettre en place une politique autour de l'accessibilité, mais on risque de se faire dépasser par la concurrence. Je ne sais pas combien passeront le cap. Mais donc, du coup, moi, ce que je vois, c'est qu'il existe une tension entre trois choses. Premièrement, les moyens. Deuxièmement, le niveau d'inclusion. J'utilise le terme inclusion et non accessibilité parce que ça englobe plus de problématiques. Le niveau d'inclusion qu'on veut donner, c'est-à-dire, par exemple, mine de rien, faire traduire tout un site dans un français le plus simple possible et éventuellement dans d'autres langues, c'est un problème. Le fait de s'assurer qu'effectivement... Parce que derrière, il faut revalider tout ça. Je veux dire, il faut bien s'imaginer que nous, en tant que valides, on n'arrive pas à comprendre les problèmes sur lesquels vous pouvez tomber. Et donc, il faut une véritable habitude dans nos développements. Je veux dire, c'est compliqué de se mettre... Moi, en tout cas, j'ai découvert la console, la lecture vocale. Là, en l'occurrence, j'ai découvert que effectivement, les intonations n'y étaient pas. Un titre est lu avec la même intonation que le reste du paragraphe. Et ça, c'est quelque chose. Nous, on n'a pas la main sur ce genre de truc. On n'a pas le temps d'aller corriger.
Mais l'intonation, à la limite, c'est pas ce qui nous gêne. C'est le nous, on veut que le texte soit restitué. C'est déjà bien. Hein.
Oui, mais c'est pour ça que je vous dis, il y a déjà une méconnaissance déjà à la base de vos problèmes. Et comme je vous dis, le problème, c'est que, je l'ai bien remarqué pendant cette formation-là, commencer à prendre en considération tous ces problèmes, c'est extrêmement chronophage. Donc, comme on est déjà malheureusement sous tension avec les développements, j'étais simplement en train de vous dire qu'il y avait eu une vraie tentative à l'université de Strasbourg et que cette tentative s'est soldée par un échec parce qu'on n'a pas été, dans des temps raisonnables, capable d'intégrer cette logique. Et vraiment, les gens qui, comme moi, ont participé à cette dynamique, on était vraiment volontaires. C'était pas... Donc, j'étais simplement... Je vous parlais de mes frustrations d'ingénieurs, et c'est bien des frustrations d'ingénieurs. Par contre, une des choses que j'aimerais relever, qui a été évoquée plusieurs fois, c'est que, finalement, l'accessibilité est devenue de plus en plus compliquée au fur et à mesure que les technologies intégraient des matériels tactiles par exemple, et donc du coup il y a plus de repères physiques, enfin je crois avoir compris ça de votre par exemple les boutons, voilà. Et d'un autre côté quelqu'un qui disait aussi je crois à l'accessibilité via les objets connectés. Moi je vais vous donner une autre vision d'ingénieur qui est un peu moins mainstream pour le moment, qui est, de toute façon, je ne sais pas si vous suivez, mais on commence à avoir des problèmes de disponibilité des composants électroniques. Cette disponibilité, elle se fera de manière décroissante. Parce que, en gros, on est en train de vider le numérique qu'on pratique actuellement est en train tout simplement de piller la planète. Donc, de toute façon, on sera obligé de faire plus simple, et y compris, je le pense, au niveau des stacks logiciels. Donc, il y a tout un mouvement qui est en train de, je ne vais pas dire de naître, parce qu'il existe depuis les années 60, mais qui est en train de renaître, qui s'appelle le convivialisme, qui pousse à une utilisation plus parcimonieuse des ressources. Et il s'avère que probablement ce convivialisme sera aussi une autre façon de penser l'inclusivité différemment. Donc je pense que... Alors je sais que du coup, c'est probablement des idées nouvelles pour vous, mais au lieu d'essayer de corriger et de corriger, on va dire, le numérique actuel, plutôt essayer de se greffer sur des gens qui ont envie de corriger, de créer, enfin, je ne vais pas dire de refaire ressortir un numérique de terre, enfin, ex nihilo, mais il n'empêche que c'est à peu près ça, c'est repartir, revoir la copie de manière assez brutale pour produire quelque chose qui soit à la fois plus respectueux de l'environnement, mais et peut-être possiblement plus inclusif. Moi, j'y crois beaucoup. Par contre, la limite à ça, c'est que pour le moment, les gens qui donnent de l'énergie dans cette vision du monde, ils sont extrêmement peu. Et aujourd'hui, quand on va voir des informaticiens, et là, pour le coup, il y a une notion de culture, quand on va voir des jeunes informaticiens qui n'ont malheureusement, qui ne sont pas, comment dire, qui n'ont pas la culture technique pour ce genre de numérique, eux ne comprennent même pas pourquoi on reviendrait à des choses qui, pour eux, sont des vrais retours en arrière.
Pour eux, c'est rétrograde.
Voilà, c'est exactement ça. C'est complètement rétrograde parce que finalement, le problème de l'accessibilité aujourd'hui, c'est que le valide, du coup, ne se rend pas compte que ses attentes par rapport au numérique laissent énormément de gens derrière.
Vous venez de dire à l'instant que vous êtes confiant, mais d'un autre côté, vous venez de dire qu'il y a trop peu de gens qui s'impliquent dans ce domaine. Alors c'est pour ça que moi, je suis beaucoup moins confiant que vous pour l'inverseur d'une tendance. Hein. Et c'est pareil pour le climat.
Alors, je suis...
Faire un retour en arrière, quand on voit les usages au quotidien des personnes... Leur demander de faire un virage, même un tout petit virage, ça va être très compliqué. Et de faire un virage à 180 degrés, franchement, je voudrais être optimiste pour y croire, mais je n'y crois pas vraiment. Quoi.
Alors,
c'est simple de vous mettre à notre place. Vous n'avez qu'à débrancher votre écran de votre ordinateur et vous essayez de travailler dessus.
Non mais
là,
ouais.
Des économies.
Oui, alors justement, enfin bon, là je vais pas développer les parties du convivialisme, mais justement vous seriez surpris, il y a de ça aussi. Merci de me permettre de mettre un bémol. Quand je dis je suis confiant, je vais clarifier. Effectivement, ce qu'on peut voir et entendre actuellement peut nous permettre de nourrir des doutes. Maintenant, ce qui se passe, c'est que je suis les tendances de cette informatique depuis des années. Je vois par exemple par rapport au logiciel libre. Et je vois que même si aujourd'hui ça paraît extrêmement minoritaire, pour ceux qui ont suivi, on va dire, l'odyssée de ce courant-là, c'est énorme. On n'a pas l'impression parce que ça reste une frange minoritaire, mais c'est une minorité qui a énormément grossi et qui a énormément pris de l'ampleur dans les décisions. Donc j'ose espérer que les politiques, à un moment, vont déclencher quelque chose autour de ça. Et c'est déjà le cas, par exemple, par rapport à la production des logiciels libres. Aujourd'hui, l'État encourage, il y a même un texte de loi qui s'appelle la loi sur la République numérique, qui tente de forcer la main des administrations à fournir des logiciels libres. Donc voilà.
Il y a beaucoup de ministères qui ont passé sur avec les logiciels libres depuis longtemps déjà.
Oui, et il y a beaucoup de non-voyants qui en sont les victimes parce qu'un logiciel libre ne sera pas forcément plus accessible. Hein. Je pense à OpenOffice, hein, pour lequel beaucoup de personnes ont eu des difficultés, pas avec le traitement de texte, mais avec la partie Excel, l'équivalent d'Excel.
Bon, on a trouvé une parade. Ils se sont retrouvés
complètement perdus. Hein.
On est passé à LibreOffice, qui est très accessible.
Voilà. Oui, enfin, Opine ou LibreOffice est très accessible. Enfin, à voir. Hein. Ce n'est pas ça quand même. Hein. C'est loin d'être ce qu'il faudrait.
Oui. Non, LibreOffice, c'est pas mal accessible quand même. Voilà.
Après, le fait qu'il soit libre ne signifie pas qu'il va être plus accessible.
Non, mais ça, je n'ai pas dit ça, Jean-Claude.
Hein, c'est
mais
problème,
on doit quand même... la tendance, elle est déjà amorcée. Hein. Le ministère de la Culture, il est passé sur des solutions libres de certains logiciels il y a déjà plus de 15 ans. Hein. Donc c'est une tendance. Je ne sais pas si elle se vérifie actuellement, mais...
Oui, je voulais rebondir en disant qu'effectivement, j'ai vu que souvent les sites qui sont écologiquement mieux sont effectivement beaucoup plus accessibles. Et du coup, effectivement, si on arrive à faire passer l'idée de l'écologie, je pense que ça peut effectivement apporter pas mal de progrès. L'autre chose que je voulais dire, c'est quand tu disais que pour les informaticiens, revenir à des technologies du passé ou à des choses plus simples, pour eux, c'est un retour en arrière. Mais j'aimerais bien qu'ils comprennent aussi que pour nous, c'est l'informatique actuelle qui est un retour en arrière. Je me rappelle qu'à l'époque, quand j'ai commencé l'informatique, pour moi, c'était un rêve, c'était une passion. Je me disais, waouh, on peut faire des choses incroyables, ça va me faciliter la vie, je vais pouvoir faire des choses que je ne peux pas faire autrement, comme lire des choses facilement, etc. Et au fur et à mesure, il y a à chaque fois des retours en arrière, des choses qui étaient faisables et qui, du jour au lendemain, ne le sont plus. Parfois, c'est même du jour au lendemain, des logiciels, des sites, etc., où à chaque fois, on trouve quelque chose de chouette, bien fait. On se dit, ah, cool, j'ai trouvé un super truc. Et puis, on revient dessus deux jours après et pouf, ça a changé et on n'arrive plus à l'utiliser. Et on est super triste parce qu'on se dit, mince, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'il y a eu une mise à jour et pouf, ça a tout cassé. Et du coup, là, c'est nous qui avons, nous, utilisateurs, qui avons l'impression de revenir au Moyen-Âge et de plus pouvoir utiliser les outils. Et franchement, c'est vraiment triste.
Alors, j'espère que tu sais que tu prêches un convaincu, mais le truc, c'est, tu vois, enfin, pour le coup, tu as assez traîné dans les milieux libristes pour savoir que tu vois bien la réception que peuvent avoir les gens. C'est cette idée de chez tel éditeur, on peut faire ci, chez tel éditeur, on peut faire ça. Et en général, effectivement, les gens ne pensent qu'à leur usage, leur fonctionnalité et n'ont aucune envie d'intégrer dans leur réflexion les problèmes que peuvent expérimenter les autres. Donc la question, là, elle n'est pas du côté de l'ingénieur, elle n'est pas du côté des mouvements libristes, elle est vraie, ou même parce que... Elle est vraiment dans les choix délibérés des utilisateurs. Bah, typiquement, par exemple, je prends, je sais pas où ça en est maintenant, hein, mais je prends par exemple les réseaux sociaux sur lesquels se sont jetés les gens dans les années 2000. Je sais pas comment Facebook pouvait être vivable pour un utilisateur déficient visuel, mais en tout cas, même pour un handicapé technologique, donc quelqu'un qui n'avait pas accès forcément à une informatique classique tels que les critères européens la produisent, et ben c'était compliqué. Donc du coup, la question, c'est, il y a aussi une idée de, globalement, socialement, nous en tant qu'utilisateurs, et là je prends surtout évidemment les valides, nous en tant qu'utilisateurs, on a à faire des choix, et ces choix, malheureusement, se font au détriment des minorités. Ensuite, les ingénieurs, comme je disais, il y a une volonté politique et ils font que suivre. Je crois vraiment que il y a des changements à ce niveau-là. Je répète, je fais preuve peut-être d'un optimisme fou, mais quand je vois comment on pouvait se faire rire au nez il y a encore 10 ans de ça et qu'aujourd'hui on peut faire des conférences sur le sujet, bah, je pense que les choses changent. Et changeront d'autant plus que la température est en train de... Enfin voilà, les conditions... sociale et environnementale de cette planète font que de toute façon il y a des choses qui vont enfin émerger dans les débats publics prochainement. Enfin, je l'espère.
Et ça, c'est la troisième chose. C'est que moi, j'avais beaucoup d'espoir dans les logiciels libres en me disant que justement, comme c'est une alternative et que finalement on peut les modifier facilement et que c'est censé être des logiciels qui justement prennent soin, je ne sais pas si c'est la meilleure façon de le dire, mais qu'il y a des valeurs derrière par rapport aux utilisateurs et bon, aux développeurs sûrement aussi, mais que du coup, on devrait être dans une mentalité et dans une production de logiciels qui respectent beaucoup plus les gens et qui justement devraient tenir beaucoup plus compte des besoins... y compris des besoins des minorités. Et j'ai été assez déçue de voir le niveau d'accessibilité de tout ça. Je pensais que le sujet intéresserait beaucoup plus. Et même si peu de personnes est formée et ne sait quoi faire, qu'au moins ce serait reçu d'une manière beaucoup plus bienveillante. J'ai été assez déçue de voir que ça ne l'était pas. Bon, je ne perds pas totalement espoir de finir par, que ça finisse par arriver, mais je trouve ça vraiment dommage de devoir à chaque fois faire un choix entre un logiciel accessible, un logiciel libre, un logiciel écologique, un logiciel, etc. Et de ne pas avoir des solutions qui pourraient combiner tout ça. C'est à chaque fois des prises de tête pour se dire finalement je choisis quelle solution, parce que qu'est-ce qui est le plus important pour moi au final. C'est dommage de ne pas pouvoir se mettre tous ensemble et de se dire ben voilà, on va faire avancer les choses en tenant compte de tout le monde.
Alors, pour être un libriste de longue date, ma réponse sera toujours la même. Irina, à quel moment tu as vu qu'on avait des moyens ? À quel moment on a déjà du mal à répondre aux demandes des utilisateurs qui nous sont adressées par les voies normales. Toi-même, tu as fait la pédagogie au sein du mouvement libriste strasbourgeois et même à la Perle Conférence quand tu étais venu faire ton intervention qui a été très appréciée. Je veux dire, c'était pas ça la question. Au contraire, les gens étaient contents au moins de découvrir ça. Mais il n'empêche que derrière, il n'y a pas de moyens.
Oui, mais honnêtement, quand je vois que certains passent des heures à faire des bidules pour afficher des chatons qui cabriolent et d'autres trucs complètement inutiles,
moi, ça me rend triste.
Parce que ce temps-là, on pourrait l'utiliser pour faire des choses utiles. Et à l'opposé, je suis triste de voir qu'il y ait aussi peu de personnes qui connaissent les logiciels libres, alors que ce seraient des solutions qui, économiquement, pourraient aider beaucoup de personnes handicapées qui, justement, n'ont pas les moyens et qui imaginent être obligées d'acheter des logiciels hors de prix. Si on avait une masse d'utilisateurs qui s'intéressaient aux logiciels libres, on aurait aussi beaucoup plus de poids pour faire avancer les choses. Et ça, c'est dommage. On est une tellement petite minorité à en utiliser et à les connaître. Et on se fait exploiter par des grosses boîtes qui nous vampirisent.
Là, en matière quand même de logiciels libres, si je prends l'exemple de la déficience visuelle, on a quand même actuellement, on utilise NVDA qui est quand même le pendant de JAWS sur la planète. Et c'est quand même un outil qu'on utilise. Moi, je l'utilise maintenant depuis presque 15 ans. Et c'est un outil qui est performant, même en milieu entreprise, on peut s'en servir. Il répond au moins à 90% des besoins d'une personne, même en milieu professionnel. Et alors, il y a certains autres logiciels libres qui ne sont certainement pas trop connus de nos congénères. Mais je dirais que le libre, là, la NVDA, c'est le meilleur exemple. La déficience visuelle a basculé massivement sur ce produit.
Mais combien encore de
déficience
visuelle ne l'utilise pas et ne sait pas que
c'est. Franchement, la tendance est quand même largement inversée. Hein. En tous les cas, moi, j'y ai travaillé, Jean-Claude, quand il y avait des gens qui. Quand les gens voulaient venir chez nous pour faire de la formation, nous, on leur disait nous, on travaille avec NVDA, point barre. Et on leur faisait la démonstration que cet outil marchait et ils ont fini par l'adopter. Je te passe le micro, Jean-Claude.
Merci. Oui, merci Gabriel de parler de NVDA, logiciel libre. À la fédération, je reçois des gens, trop peu d'ailleurs, pour se former à NVDA. Comme dit, hein, c'est un produit libre, gratuit. Nous sommes quelques-uns à avoir vraiment investi dans cet outil-là et sommes prêts vraiment à aider les gens à les former à l'utilisation de ce produit. En tout cas, pour l'utilisation sur ordinateur. Hein.
Oui, et puis même tous les modules qui ont été développés avec NVDA pour rendre d'autres logiciels plus accessibles, c'est quand même, il y a une bibliothèque maintenant de modules qui est assez impressionnante. Hein. Et on peut arriver maintenant à faire des choses extrêmement pointues. Et là, la communauté du libre a vraiment œuvré vraiment d'une manière très, très efficace. Hein. Et je veux dire... Je dirais que NVDA, avec ses modules, n'a rien à envier avec Joe et ses scriptages. Franchement, je le dis en connaissance de cause.
Après 15 ans, tu dois être chez toi avec NVDA.
Franchement, moi, on ne fait pas plus de choses avec Joe qu'avec NVDA. Si quelqu'un me prouve, alors il y a certainement quelques utilisations extrêmement complexes qu'on pourra faire avec certains logiciels ou pas avec d'autres. Ça, je suis d'accord. Mais dans 90% des usages, le logiciel NVDA, qui est un logiciel libre, permet de faire la même chose qu'un logiciel payant qui coûte 1500 euros. Ouais. Ça, qu'on soit clair là-dessus, quoi.
Oui, en plus, il faut des mises à jour régulières que tu payes.
Ouais, en plus.
Alors. Oui.
Quand on rencontre une difficulté avec NVDA, ben on se dit, tiens, on a toujours des versions de démonstration de JAWS qui coûtent 40 minutes. Donc on essaye. Eh ben, en général, JAWS ne marche pas mieux. Un élément qu'on n'arrive pas à trouver sur une page, un lien sur lequel on n'arrive pas à cliquer, un élément qu'on n'arrive pas à repérer, ben en général, on ne va pas plus loin avec JAWS.
Le seul regret que moi j'ai, c'est de ne pas franchir le pas il y a quelques années pour me mettre à Linux, hein, pour passer en ligne de commande. Ça m'aurait ouvert professionnellement beaucoup plus de champs que de passer sur Windows. Alors vous me direz, on aurait pu le faire d'une manière concomitante. Hein. Mais c'est vrai que quelqu'un qui maîtrise Linux, qui peut travailler en ligne de commande, il s'ouvre des champs professionnels sur l'informatique qui sont bien plus importantes. Mais ça, c'est pareil. On a voulu uniformiser les tâches en entreprise avec Windows ou avec ça. Et voilà. Et ce qui fait que les gens, il y a 30 ans, ont délaissé leur cher DOS pour passer à Windows. Mais en fait, il y a quelques Linuxiens qui ont fait de la résistance et qui ont su s'adapter. Et d'ailleurs, les personnes que je connais qui ont trouvé du boulot et des postes importants en tant qu'ingénieurs aveugles ou malvoyants, c'était toujours des gens qui pratiquaient Linux. Parce que sans Linux, ils n'auraient jamais pu occuper des postes comme ça.
Alors justement, quand je parlais de convivialisme et vous parliez de ligne de commande, c'est exactement à ce genre de technologie que je pensais. Et là, malheureusement, il faut bien avouer que les développeurs qui s'intéressent à ce genre d'environnement de développement et d'usage, en fait, ils ont fui. Aujourd'hui, ils sont sur le web. La jeune génération ne sait pas, a une peur, panique de ce truc-là. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Et les écoles d'ingé n'ont fait que, malheureusement, suivre une tendance. Enfin, je veux dire clairement, les écoles d'ingé veulent des élèves parce que c'est leur client, en définitive. Donc, ils forment sur des technos qui sont bankable. Le terminal, ça fait un moment que c'est plus bankable. Bon, comme dit, effectivement, il y a encore plein de gens qui l'utilisent et pour d'autres raisons que la convivialité, que l'accessibilité. Maintenant, avec deux bémols, parce que justement, moi, c'était quelque chose que j'aurais voulu expérimenter. Mais là, pour le coup, il y a peut-être des choses à faire au niveau du tissu libriste associatif local. Je regarde en direction d'Axtube. Il y a deux bémols. Premièrement, il faut considérer que un certain nombre de mécanismes dans là en l'occurrence, il s'agit de déplacer un curseur sur un échiquier. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, en gros, c'est comme ça que ça se passe. Ces mécanismes-là cassent le sens de lecture d'une manière qui est extrêmement difficile à récupérer. Donc, il y a ça. Et la deuxième chose aussi, c'est que, en tout cas, et là, pour le coup, je demande qu'à travailler avec des gens dans ce sens-là. La deuxième chose aussi, c'est que, malheureusement, dans ces terminaux, ne s'affiche que du texte. Et quelque chose qui est apparu, enfin qui là pour le coup m'est apparu récemment, quelqu'un m'a fait la réflexion que l'équivalent du web dans le milieu convivialiste qui s'appelle Gopher, un des problèmes c'était que malheureusement pour quelqu'un qui utilise des synthèses vocales, eh ben, tous ces schémas textuels étaient atrocement, étaient absolument illisibles et correspondaient à un pâté de caractères sans réelle existence. Donc, pertinence. Donc du coup, je pense qu'il y a moyen, en tout cas c'est beaucoup plus facile de partir de cette informatique-là et de produire quelque chose d'accessible que de partir de l'informatique grand public actuelle pour faire quelque chose d'accessible. Moi c'est le truc, enfin je vous parlais au début d'espoir à partager, moi mon espoir il est là, c'est que plus on arrivera à recréer une culture autour de ces outils-là, plus on pourra faire de l'inclusion.
Mais le chemin sera long. Hein,
celui sur lequel d'autres sont intervenus, le sera. J'ai envie de dire encore plus, parce que le gros avantage de mon approche, c'est que ça part du principe qu'il faut des bonnes volontés et éventuellement des moyens. Alors que suivre la tendance du numérique actuel et essayer de la conformer à vos attentes, c'est avant tout attendre qu'il y ait une volonté politique de la part de gens qui s'en mettent plein les fouilles à n'avoir aucun scrupule à vous oublier dans leur logique.
Alors, je rebondis un peu sur ce que vous venez de dire. En termes de moyens, moi, je pose la question, là, aujourd'hui, qu'est-ce que la ville de Strasbourg, qu'est-ce que l'Eurométropole pourrait mettre sur la table pour favoriser l'accessibilité numérique, si ce n'est qu'en termes de locaux, en termes de formateurs, en termes d'aide humaine, de bénévoles, pour essayer de coordonner un peu les choses. C'est ça aussi les moyens qu'on aurait besoin. Parce que c'est vrai qu'il y a des petites associations qui n'ont pas forcément des locaux, et pour recevoir des gens, pour y mettre du matériel, et pour que les formations et l'information des personnes qui en ont besoin soient efficaces, bah, il faut des locaux, ça fait partie des moyens, tout ça. Voilà. Donc la question, elle est ouverte. Voilà.
Je vais tenter de répondre. Tout à l'heure, il y avait. Désolée, je ne connais pas les prénoms, je n'ai pas encore retenu tous les prénoms. Il y avait quelqu'un qui disait peut-être qu'il faudrait vous intégrer un peu plus. Et la ville de Strasbourg, depuis quelques années, en fait, a mis en place un réseau d'inclusion numérique. Et effectivement, vos associations pourraient intégrer ce réseau pour parler de ces différentes problématiques. Et là, concrètement, ce qu'elle met en place, c'est qu'elle tente de coordonner un ensemble d'acteurs différents qui travaillent sur l'inclusion numérique au sens, à un niveau plus global. Et dans ce réseau d'inclusion numérique, il y a différents outils qui sont déployés là. Il y a les conseillers numériques. Il y a les passes numériques aussi qui sont destinées en fait à des personnes, à toute personne qui se sent en difficulté avec les numériques et qui souhaite apprendre des choses. Et je sais que parfois pour nous c'est difficile d'aller toucher les publics qui sont justement éloignés du numérique et qu'on a envie d'accompagner pour qu'ils soient plus à l'aise dessus. Et vous, j'ai l'impression que vous aussi, vous avez du mal à trouver, à aller vers des personnes, avec des personnes qui sont sur cette problématique-là.
Et souvent, la problématique, elle vient de l'âge des personnes, au moment où elles perdent la vue. Et ça, c'est un gros problème. Le problème des personnes atteintes de DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui arrive à 50, 60 ans, ces personnes-là, c'était des gens qui étaient dans le numérique. Mais du fait de la non-accessibilité à l'ordinateur ou au smartphone, arrive chez nous et il faut qu'elle reparte à zéro. Et c'est là qu'on a besoin d'aide, on a besoin de bénévoles, on a besoin de structures pour les accueillir. Et là, les réseaux numériques que vous avez mis en place, là, il se pose vraiment le problème de l'information et de la communication. Gabriel, moi, je ne savais même pas que ça existait.
Gabriel, c'était le sens de mon intervention tout à l'heure. Nous avons tout intérêt à nous rapprocher de ces acteurs du terrain.
Et vous êtes le bienvenu.
Alors avec quand même la difficulté, la spécificité de la maîtrise d'un outil informatique pour une personne aveugle, c'est même si on va dans un réseau numérique normal, lambda, la personne qui peut nous aider, si elle n'a pas la connaissance de nos outils à nous, elle pourra aider personne. On est bien d'accord. C'est un peu la difficulté en fait.
Et c'est pour ça aussi que les associations ne se sont pas forcément intégrées dans des réseaux existants, parce qu'il y avait ce frein-là et ce mur-là quoi, à franchir. Quoi. Mais au niveau des voilà. politiques et de l'ensemble de la réflexion, ça nécessiterait, ce serait un vrai vecteur d'inclusion, justement, de pouvoir faire rentrer des personnes dans un système tout à fait normal de réseau. Je le conçois tout à fait. Hein.
Moi, je propose solennellement aujourd'hui, hein, j'espère qu'à l'issue de cette rencontre,
j'espère qu'à l'issue de cette rencontre, en quittant la salle tout à l'heure, que nous ayons quelques contacts et nous nous faisons fort de prendre contact avec vous, de vous rencontrer et d'aller un peu plus loin sur ce chemin.
Oui, très bien, je vous donnerai nos coordonnées. Et je voulais juste dire un truc aussi par rapport à la ville, par rapport à ses actions. C'est vrai qu'elle réalisé une semaine numérique responsable où justement il y avait d'autres acteurs qui sont autour de la table là, qui ont participé. Et elle est dans une démarche en ce moment d'audit de ses propres sites pour voir justement où on en est et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit plus inclusif.
Et je vais juste rebondir sur Sam, c'est que finalement on fait à peu près la même chose et il y a beaucoup de conseillers numériques dans la ville de Strasbourg, mais malheureusement moi ce que j'ai remarqué c'est que c'est des personnes qui sont là pour soit aider des personnes avec les logiciels, comme on a dit, hein, finalement tout le monde a des soucis à comprendre Pôle emploi, à comprendre la CAF ou à comprendre les impôts ou des choses comme ça, mais je trouve que finalement ça... Je suis la seule qui travaille avec la situation d'handicap et le numérique. Et justement, je trouve que les conseillers numériques ou le numérique en général, on oublie énormément les personnes en situation d'handicap, tout genre. Et il y a énormément de choses à faire, il y a énormément de choses à voir, à connaître et à se renseigner. Et c'est bien d'avoir des conseillers numériques, mais de ce que j'ai vu, il n'y en a pas beaucoup qui sont aptes à s'occuper des personnes en situation d'handicap.
Il faut que vous veniez, il faut que vous veniez en parler.
On revient toujours à un problème de formation. Hein. L'information et de formation.
Tout à fait. Et vous êtes là ? Je vais me permettre de rebondir, même si j'avais promis de me taire aujourd'hui. alors, sur trois points. Sur le point lié au médiateur, c'est ça, numérique ? Conseiller Hakim Koresh, je suis directeur. Voilà. J'ai eu peur. Mon ego a failli en prendre un coup. Ouais, ça va. Alors c'est très bien. Je le dis d'autant plus facilement que je suis ancien directeur de centre et qu'on a déjà mis en fait des conseillers ou des animateurs numériques pour lutter contre la fracture numérique, alors pas liée au handicap. Et techniquement, c'est un dossier qu'on envoie à la ville qui subventionne et on prend un animateur chez nous. Peut-être le plus doué, celui qui a Facebook et Instagram, et on le met en aide. C'était ça. Hein. Donc, je ne dis pas que ça va être ça. Hein. Je dis juste que on revient à ce que vous dites tous, c'est que la partie formation, elle est nécessaire, elle est névralgique au fonctionnement et à la réussite d'un projet dans ce sens-là. C'est vrai qu'à la fédération, alors c'est plutôt Gabriel Reb qui porte ce projet-là, mais on travaille. Bon, globalement, on réfléchit à pouvoir en fait proposer des formations numériques au plus grand nombre, en tout cas des déficients visuels. Et l'un des deux premiers problèmes, au-delà des locaux, c'est la formation des formateurs, donc de celui qui va former. Et quand on a dit ça, on a déjà dit voilà, que ça ne se règle pas qu'avec une subvention.
C'est déjà où ça fait mal.
Ouais. Après, je reviens, mais je suis désolé, je vais te bousculer un petit peu par rapport à tout à l'heure, mais là, je réagis juste en chef d'entreprise, parce que au niveau technique, je suis complètement lâché depuis tout à l'heure sur le niveau informatique. Mais en termes de... si je réfléchis en tant que directeur d'entreprise et la fédération d'une entreprise de 120 salariés, si moi, je me dis qu'il y a 12 ou 13 millions de personnes en situation de handicap, 3 peut-être qui sont touchés par la déficience visuelle, on parle en France, et qu'au niveau mondial, ben, c'est vite exponentiel, ce chiffre explose. Je me dis qu'il y a un potentiel marché incroyable. Je suis juste sur du market, hein, c'est tout. Hein, d'accord. Je réfléchis en termes de marketing, j'enlève tout humain. Il y a un potentiel incroyable. Donc on va contacter des business angels, on va contacter des banques, on crée des collectifs. Et là, en recherche et développement, on en a pour des centaines de millions d'euros qui sont posés sur la table. Ça nous prend peut-être 20 ans, mais dans 20 ans, on n'est pas là à en discuter. Et les solutions sont intégrées auprès des éditeurs de logiciels ou tous les autres. Et après, je suis un peu lâché au niveau technique, donc j'arrête là. Mais je pense que il y a de la politique, mais la donnée économique, elle est là. Il y a un marché réellement pour celui qui veut se lancer dedans. Donc ça coûte pas. Et Gabriel l'a dit, Jacques Allon l'a dit tout à l'heure, ça coûte pas de l'argent. C'est pas vrai. Ce qui coûte de l'argent, c'est de rien faire ou de refaire.
Je voudrais juste intervenir brièvement sur ce qui a été dit avant, en rebondissant sur ce qu'a dit Irina il y a un moment, sur le fait que les sites devenaient plus compliqués, qu'il y avait une sorte de recul. Ça, c'est vrai, quand je me rappelle que quand Google est arrivé, par exemple, sa page d'accueil, n'importe qui, même non technicien, pouvait lire la page, je veux dire le contenu de ce qui était envoyé, et sans avoir besoin d'outils extraordinairement compliqués, comprendre ce que ça faisait. En gros, il y avait, je ne sais pas, quelques centaines de caractères maximum pour faire le champ de recherche, le OK, le bouton OK, etc. Aujourd'hui, vous prenez n'importe quel site, vous avez une page, ça vous affiche trois mots, et en fait, vous avez 10 kilos de CSS, 2 JavaScript, 2 machins. Vous voulez même essayer de lire comment c'est ce qui vient de s'afficher, c'est devenu impossible. Et par contre, je ne suis pas aussi optimiste que toi, je ne crois pas du tout que ce soit possible de revenir en arrière. C'est-à-dire qu'on ne reviendra pas à une informatique linéaire, du type terminal avec une information en flux comme ça. Et pour des raisons relativement simples, c'est que, par exemple, je lisais récemment que Netflix, c'était devenu 10% du trafic Internet. Je veux dire, même si vous avez beau remplir vos pages web avec des centaines de kilos de JavaScript, etc., vous ne ferez jamais... Enfin, ce sera toujours ridicule comparé au reste, donc ça paraîtra absolument absurde. D'autre part, cette solution, elle me semble en fait... pas vraiment à la tendance et à ce qui se passe. C'est-à-dire que les solutions, elles viendront plutôt d'une informatique beaucoup plus intelligente. C'est-à-dire qu'en gros, Google, aujourd'hui, il n'a même pas l'intelligence émotionnelle et spatiale de mon chat. Donc, en fait, l'informatique, ce n'est pas qu'elle est trop compliquée, c'est qu'elle n'est vachement pas assez intelligente. Or, les progrès, ils existent. C'est-à-dire qu'on voit apparaître, en termes d'IA, etc., des choses extraordinairement complexes qui, par contre... Et là, remettre en cause complètement l'approche des logiciels libres. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé les logiciels libres, le but des logiciels libres, c'était de fournir du logiciel aux gens pour qu'ils les utilisent. Et en fait, le logiciel libre, il a gagné en perdant. C'est-à-dire du logiciel libre, maintenant, il y en a partout, mais il est dans les infrastructures. Et nous, en fait, on utilise les GAFAM qui, derrière, utilisent massivement du libre, mais qui ne nous est pas accessible parce qu'on n'en est pas maître, il n'est pas sur notre plateforme. Et ce retour en arrière vers la maîtrise de la plateforme, elle est complètement impossible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si par exemple vous voulez faire de l'IA, vous devez faire de la big data, vous devez avoir des centres de calcul avec des milliards, enfin des pétaoctets de données pour arriver à faire quelque chose, pour arriver à faire par exemple GPT-3, par exemple, qui est un moteur de compréhension de texte, etc. Et or, les solutions, je pense qu'elles viendront plutôt de là.
Alors, le truc, c'est non. Mais malheureusement, je ne vais pas vampiriser le débat. Ouais, alors, soyons clairs. Je comprends ta position. Et quand tu dis, de toute façon, la tendance, c'est ça. Moi, je suis libriste depuis 25 ans. Alors, je peux te dire que les tendances, ça fait un moment que ça ne m'intéresse plus. Par contre, ce que je vois, c'est qu'on a produit des solutions auxquelles personne ne croyait à l'époque. D'accord ? Donc, moi, ce que je vois, c'est que aujourd'hui, j'ai envie de repartir sur le même truc. De dire, on a des problèmes, on les a identifiés, on veut essayer. Donc, moi, je vais parler pour le collectif de libristes strasbourgeois. Je ne sais pas combien vont me suivre derrière. Mais en tout cas, moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'on fasse une évaluation de l'accessibilité des outils en terminaux qui existent déjà. Et simplement pour qu'on se rende compte du... par exemple, voilà, c'est ça. Par exemple, typiquement, on a des clients messagerie. Je vous parlais avant du problème du positionnement du curseur qui est un vrai problème pour l'accessibilité. Ouais. Par contre, les premiers clients mail n'avaient... pour le coup, pour des limitations techniques, n'utilisaient pas du tout ces dispositifs. Donc, je subodore que pour quelqu'un qui a besoin d'une assistance vocale, pourquoi pas, ce serait peut-être un bon outil. L'idée, du coup, c'est au lieu d'aller chercher un bouton, on va utiliser une touche sur le clavier. Donc, je ne sais pas si... Là, pour le coup, je n'ai pas assez d'expérience dans les dispositifs que vous utilisez pour savoir si c'est pertinent ou pas. En tout cas,
dans les clients mail, moi, je rencontre personnellement pas trop de difficultés. Que ce soit avec Firefox ou avec Microsoft Edge ou avec Google Chrome, moi, je rencontre pas de difficultés majeures.
Alors, d'accord. Je sais pas de quoi vous voulez parler.
Là, en l'occurrence, justement, je ne sais pas parce que le web, enfin le numérique que vous critiquez, en fait, je l'utilise quasiment pas. J'en ai produit malheureusement parce que c'était mon travail, mais en définitive, je l'utilise pas. Par contre, ce que j'étais en train de dire, c'est que typiquement, par exemple, pour les réseaux sociaux, le fait de recouvrir, en fait, pour le coup, le réseau social, les réseaux sociaux, c'est du transfert de données, d'informations brutes, oui. qui va être ensuite mise en forme pour l'utilisateur final. Et en fait, tous les problèmes de l'accessibilité, elle est justement dans le fait que cette mise en forme, elle est faite pour des valides. Elle n'est pas faite pour vous. Donc, si on revient au modèle technique des années 90 où on n'envoyait que de la donnée et qu'ensuite, il y avait un enrichissement ergonomique qui était fait par les outils qui étaient sur le desktop, et ben là, on revient à quelque chose qui, en termes d'accessibilité, est plus facile à mettre en œuvre.
Alors moi,
Attendez, je finis simplement. Pourquoi ça ne se fait plus ? Tout simplement parce que ça ne permettait pas les business models qui, aujourd'hui, dominent le monde de l'informatique. C'est aussi simple que ça. C'était du pognon.
Après, des difficultés sur les réseaux sociaux en matière d'accessibilité, si je prends l'exemple de Facebook, par exemple, avec un iPhone ou avec un Android, faire une publication sur un réseau comme ça et de lire les publications, ça ne pose pas de difficultés majeures, je dirais. Voilà. Alors est-ce qu'il faut en revenir à d'autres moyens techniques pour générer du contenu ? Je ne suis pas sûr que ce soit un besoin, là, tout de suite. Quoi. J'en suis pas sûr. Twitter, oui, je suis d'accord. Twitter n'est pas très accessible.
Alors, comme dit, je veux pas.
Mais ergonomiquement, ça laisse quand même à désirer.
Il y a d'autres raisons qui font qu'on veut remettre ce genre de technologie au goût du jour, mais comme dit là, pour le coup, on sort de l'accessibilité. Mais clairement, moi, ce que j'étais en train de vous dire, c'est de toute façon, il y a cette tendance-là, pour d'autres raisons, et je pense que cette tendance est favorable à l'accessibilité. Donc, du coup, restons en contact, au moins, pour qu'il n'y ait pas un dérapage dans une réinvention, peut-être, d'autres outils.
Oui,
Je vais vous parler d'un outil, par exemple, sur Facebook. Beaucoup de gens envoient la photo d'un texte. Aucun lecteur d'écran ne peut lire ça. Maintenant, avec l'iPhone, quand il y a une photo de texte, il le lit.
Parce qu'il y a de la reconnaissance de caractère, je suppose. Voilà,
s'il y a des caractères dans la photo. S'il y a des caractères dans la photo, par exemple, vous faites la photo de votre épouse et derrière, il y a une affiche avec une publicité, il vous lit ce qu'il y a à l'arrière dans la photo.
Mais ça, je pense pas, ça passe justement par l'intelligence
voilà. artificielle. Et tout ça, si on va commencer à vouloir rogner sur certaines choses, c'est les premières choses qu'ils vont enlever, c'est ça. Hein.
Non, mais je pense qu'il ne voulait pas dire ça. C'est pas ça qu'il voulait dire.
Oui. Non, mais vous voulez simplifier l'informatique.
Par contre, pour revenir aussi à quelque chose de positif, ce que je voulais dire par rapport au logiciel libre, ce qu'il y a de très intéressant par rapport au logiciel non libre, c'est qu'il y a possibilité de les adapter, de pouvoir les adapter à la fois soi-même ou de passer par d'autres personnes qui vont les adapter derrière. Mais au moins, on n'est pas bloqué par des éditeurs qui vont dire « Ah ben, nous, notre logiciel, vous y touchez pas, on n'a pas envie de faire cette modif, du coup... »
Irina, est-ce que tu connais beaucoup d'entreprises qui travaillent avec des logiciels libres et qui ont accepté, à un moment donné, de rendre une brique de ce logiciel libre accessible pour qu'un non-voyant puisse travailler correctement ? Moi, il faudra qu'on me donne des exemples, j'en connais aucun. Alors, ça existe, la possibilité existe, on peut intervenir, mais il faudra toujours de l'humain, il faudra toujours de l'ingénierie derrière pour améliorer l'outil. Hein.
Mais on n'est pas obligé de passer forcément par des entreprises.
Oui, parce que c'est pas l'utilisateur lambda qui va intervenir et faire ça. Hein, on est d'accord.
Si je prends l'exemple de NVDA, il y a eu beaucoup de retours utilisateurs. Les développeurs de NVDA ont intégré les remarques et demandes des utilisateurs, et le logiciel a beaucoup progressé grâce à ça.
Moi, je te parlais pas de même. Moi, je te parlais d'un exemple dans une entreprise. Une entreprise, par exemple, qui utilise LibreOffice, si une personne a un problème d'accessibilité, il faudrait qu'elle puisse faire quelque chose pour que ça avance. Et ils en ont la possibilité, c'est ouvert comme système. Hein. Mais est-ce qu'elle va le faire ? Je connais très très peu d'exemples, hein, franchement.
Non,
pour pas dire que j'en connais pas du tout, quoi.
Il faudrait aller demander directement à LibreOffice de faire les ajustements dedans. Bon, après. C'est pas sûr que LibreOffice acceptera, mais
c'est des questions de moyens humains. Les logiciels libres, ils émergent parce que derrière il y a des petites mains qui travaillent sur le code.
Alors le truc, c'est, je reviens sur cette idée de convivialisme. Une des idées aussi qui est fondamentale là-dedans, c'est de rendre à nouveau la technologie aux utilisateurs. Le débat que vous avez là, il est super vieux. Cette idée de dire, ben, c'est du logiciel libre, on peut y contribuer. Est-ce que vous avez déjà mis... Alors, je sais que la plupart d'entre vous vont dire probablement non, mais les bases de ce qu'on appelle les bases de code, donc le code source, c'est le... On utilise des langages pour parler aux ordinateurs et l'intégralité du corpus qui va faire que l'ordinateur va comprendre comment faire fonctionner un programme, c'est ce qu'on appelle le code source. Le code source de, ben, par exemple, d'un navigateur libre, je prends par exemple Firefox, c'est 43 millions de lignes. La plupart des gens ne veulent pas prendre le temps d'essayer de comprendre comment est foutu ce truc-là. Accessibilité ou non. Je vous parle, moi, par exemple, quand j'ai un problème avec Firefox, je passe à autre chose. Parce que je suis énervé par le fait que ce truc-là est une énorme bouse. C'est beaucoup trop lourd, et pour la plupart des informaticiens. Donc quand on dit oui, le logiciel libre, c'est super parce que tout le monde peut s'y mettre, c'est pas vrai, ça demande un investissement phénoménal. Et un des problèmes de l'informatique aujourd'hui, pardon ?
Non, il disait que ça nécessite beaucoup de moyens humains si on veut y modifier quelque chose.
Précisément. Et donc du coup, un des avantages du convivialisme dont je parlais avant, c'est que justement, par contre, si vous allez voir tous ces logiciels qui sont... qui utilisent les technologies de type terminal, et ben en fait, en général, ben je prends par exemple le client de messagerie que j'utilise, c'est quelques milliers de lignes. C'est ridicule. Et donc, le truc, c'est là encore, il y a une vraie volonté de revenir à quelque chose de plus simple. Et ça n'est pas qu'une question, comme je vous disais, de handicap ou de quoi que ce soit. C'est une question de, on a perdu la maîtrise technologique. Parce que quand bien même on nous donne le code source aujourd'hui, peu de gens peuvent... Réellement.
Ils ont pas la volonté de se mettre tout ça dans le crâne.
Pas le temps, tout simplement pas le temps. On a nos vies, on a nos emplois, en plus on est payé à faire des choses qu'on n'a pas choisies. Et bien souvent, le libriste, c'est celui qui va passer sa soirée, pourrir sa soirée, à faire avancer un code source, alors que d'autres amis sont au bar, quoi, soyons clairs. Donc c'est ça aussi la réalité. Plus la taille des logiciels est... Et petite, plus de gens pourront entrer dans la boucle. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas du tout la tendance actuelle. Et là encore, pour des raisons économiques, du moment où vous avez des bases de code qui explosent, et bah, du coup, vous avez une expertise qui est valorisable. Donc, en gros, bien souvent, les usines à gaz, toujours, il y a des business models derrière.
Je voudrais juste rebondir par rapport à la formation et pour l'apprentissage de certains langages informatiques, notamment le PHP. Est-ce que parmi vous, là, vous connaissez des organismes, des formateurs qui pourraient donner des cours à des personnes aveugles pour apprendre à programmer en PHP, par exemple ? C'est une demande. Voilà.
Alors, oui, mais non. Pour moi, vous êtes en train de desservir la communauté des non-voyants en faisant ça. Pourquoi ? Parce que PHP, c'est clairement pour produire des pages web, alors que je pense qu'aujourd'hui, il y a des technos qui sont beaucoup plus...
Ça reste le moyen le plus simple de créer une page web.
Alors,
pour une personne aveugle.
Déjà, non. Et... Non, mais j'ai pas envie de rentrer dans cette discussion technique parce que. Mais ayons cette discussion sur le. J'essaierai de vous convaincre qu'il faut surtout pas aller vers PHP. Si vous voulez servir la communauté des malvoyants, je pense que c'est pas vers là qu'il faut aller. Mais là, par contre, oui, on peut vous former à des technos qui sont pertinentes, même si vous voulez faire du web. Je pense que c'est vous tirer une balle dans le pied que d'aller vers le web. Mais après, à vous de voir.
Vous pensez que l'apprentissage du PHP pour créer des pages web, ce n'est pas la chose la plus aisée pour une personne aveugle?
Non, ce que j'ai dit.
Au-delà de.
Non, ce que j'ai dit, c'est que la techno web n'est pas le meilleur endroit pour les personnes qui ont des déficiences visuelles.
Et pourquoi
on peut rentrer dans la partie technique ou... Ok, d'accord. Alors, tout simplement parce que ce qui pose problème aujourd'hui, c'est une séparation claire entre le contenu brut et sa mise en forme. Et le web n'a aucune et est fondamentalement fait pour brouiller les pistes. Le web est une technologie pétée à ce niveau-là. Il n'y a pas moyen de récupérer le web. Et donc, moi, ce que j'étais en train de vous dire, c'est reprenons des technologies qui prennent des données brutes et faisons en sorte qu'elles soient lisibles par n'importe qui. Voilà.
Il ne faut pas que ce soit un vœu pieux aussi.
Il ne faut pas que ce soit un vœu pieux, mais pour ça, là j'ai envie de vous dire, ça ne dépend pas de nous. Ça fait 20 ans qu'on dit attention, l'informatique va dans des. Explore des trucs qui auraient été, à notre avis, pas à faire. Ça fait 20 ans qu'on ne nous écoute pas. Nous, on est toujours là avec la même proposition. Et pour le coup, j'aimerais beaucoup, par exemple, une alternative qui existe au web depuis, en tout cas, les milieux des années 90, j'en suis sûr, mais qui s'appelle Logofer. J'aimerais beaucoup qu'on fasse un test accessibilité sur des sites Gopher, par exemple, qui sont des alternatives au web en termes de visualisation de contenu. Et qui, en plus,
c'est des sites qui ont été créés avec d'autres langages informatiques, c'est ça?
Pas des langages informatiques. C'est des sites qui ont été créés avec une autre vision. Et donc, pas le langage informatique au sens interaction.
Il y aura toujours du HTML, du PHP?
Non, justement pas. Il n'y a jamais eu, et ça a été une vraie volonté dès le départ, de ne pas mettre d'HTML et de PHP. Pourquoi HTML? Pourquoi? Parce que HTML, justement, l'idée, c'est de dire... On a une structure et ensuite on va mettre en forme cette structure. En fait, pour le coup, si je vais parler un peu technique et malheureusement, typiquement, le HTML permet un enrichissement sémantique du texte. Oui. On peut mettre des paragraphes, on peut mettre voilà, et ainsi de suite. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'avec l'HTML arrive un truc qui est absolument horrible qui s'appelle CSS. CSS, c'est le truc qui a fait que le web s'est vendu. C'est-à-dire, ça permet. Un enrichissement graphique. Ensuite, il y a un autre truc qui s'appelle JavaScript qui permet de rajouter, on va dire, du dynamisme aux pages web. Alors, je ne sais pas à quel point vous vous rendez compte de ça, mais réellement, le succès du web, c'était ça. Et c'est justement les choses qu'il faut éviter pour créer...
Mais c'est bien pour ça que je pense qu'on ne pourra pas revenir en arrière.
Et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas revenir en arrière. Il faut continuer à maintenir des outils qui se sont gardés d'utiliser ce genre de logique.
Ben moi, je suis prêt à faire un test sur un site
Je vous recontacterai.
Qui utilise votre techno, il n'y a pas de souci. Moi, je suis ouvert à beaucoup de choses. Le souci n'est pas là.
On parlait de formation avant. Par exemple, le logiciel qu'on utilise qui s'appelle NVDA, je ne connais rien au langage informatique, écrit dans un langage qui s'appelle Python. Parce que ça veut dire, parce que ça correspond. Est-ce qu'il est envisageable de former des non-voyants à cet outil pour qu'ils puissent intervenir eux-mêmes sur le programme NVDA?
C'est un level supérieur.
Alors, intervenir pour donner des cours de programmation. Oui, maintenant, j'ai une grande question. Et là, pour le coup, c'est simplement de l'ignorance pure de ma part. Quels sont les éditeurs qui sont à votre disposition pour manipuler du texte? Je ne comprends pas. Enfin, voilà. Moi, les utilisateurs...
Des éditeurs... il y a Blocknotes, il y a Pluma... Okay.
D'accord. Et dans les logiciels libres, il y a des choses?
Pluma.
OK. Bon, du coup, voilà. Je pense qu'en fait, il y a une discussion à avoir en tout cas avec les libristes strasbourgeois sur le sujet. Mais oui, pour le coup, ça s'envisage. Maintenant, le truc, c'est avant de se poser la question de savoir comment programmer, il faudrait vraiment se poser la question de qu'est-ce que vous voulez programmer. Et c'est là où, justement, j'essaie d'amener peut-être une réflexion différente.
Il s'agirait notamment de modules. Il s'agirait de réaliser des modules pour NVDA, par exemple.
voilà, qui facilite l'accès à certains usages. Hein.
Ou à certains logiciels. Hein.
De certains logiciels ou de certains sites. Voilà.
Faire des raccourcis pour certaines opérations.
Oui, je sais qu'il y a déjà eu, même si c'est peu, des aveugles qui ont programmé des scripts pour NVDA. Je pense que pour Linux, sur le logiciel équivalent qui s'appelle Orca, il y a peut-être aussi possibilité de faire des choses. Et du coup... pour conclure aussi sur le sujet, j'aimerais bien qu'on essaye de réfléchir comment on pourrait tous ensemble continuer sur le sujet, comment on fait pour se recontacter.
Sur une thématique précise, par exemple.
Se revoir régulièrement sur une thématique précise. Ouais. Oui, ça serait chouette.
Ça serait une façon de faire avancer un peu le schmilblick, quoi. De se revoir, je dirais peut-être tous les deux mois, mais sur une thématique bien précise. Qu'on aura déjà checké à l'avance, quoi.
Oui, il faudrait trouver un lieu.
Il faut qu'on ait déjà travaillé sur une thématique, et voilà. C'est une bonne idée, Irina.
Oui. Est-ce que se retrouver au Shadok, on peut peut-être leur demander s'ils n'auraient pas un créneau sur lequel on pourrait se retrouver.
Est-ce que vous connaissez d'autres espaces numériques sur Strasbourg qui pourrait recevoir justement.
Je sais pas, je pensais à la médiathèque Malraux juste à côté. À l'université peut-être, mais c'est peut-être pas évident.
Nous on a un espace.
Ok. Moi, vous savez, ce qui me fait bondir dans cette société, c'est quand je vois tous ces millions de mètres carrés qui sont inutilisés le samedi dimanche et que nous, les associations, on manque cruellement d'espace. C'est inacceptable, quoi. Toutes les écoles, toutes les universités, toutes ces institutions sont fermées et on n'a jamais un endroit pour se réunir. C'est complètement dingue, quoi. On marche sur la tête, quoi.
Si jamais, nous, à APF France Handicap, donc on est au 13 rue d'Aubernay, à côté de la gare, à Strasbourg, on a une salle et je serais ravie de vous recevoir et de même venir le samedi ou le dimanche pour vous ouvrir la salle spécialement pour vous et qu'on puisse discuter de ça.
Écoutez, on retient cette invitation. Je suis persuadé que l'échange entre associations fera avancer les choses.
Oui, bah,
déjà, nous connaître mieux dans les catégories d'handicapés, ça ne fait que progresser, faire progresser notre société.
Alors, à qui je dois prendre le contact, du coup?
Avec moi, par exemple.
Ça marche. Bah, je viendrai vous voir.
Pas de souci. Qui veut ajouter quelque chose?
On était censé finir il y a à peu près une dizaine de minutes. On peut se laisser encore un peu de temps s'il y a des personnes qui veulent encore parler de ce sujet. Mais d'ici 5-10 minutes, je vous invite à aller prendre du gâteau et du jus de pomme et de la tisane pour finir avec des douceurs.
Ça dépendra de la réponse. Bonjour, j'ai une question.
La personne de l'APF ?
Oui. Ouais. OK. Oui. Bonjour, j'ai une question pour les personnes avec une déficience visuelle ici. Si vous deviez comparer le monde avant le numérique, ou avant que vous l'utilisiez en tout cas, et le monde d'aujourd'hui, en mettant l'impact émancipateur du numérique d'un côté et les contraintes qu'il vous apporte de l'autre, est-ce que vous diriez que vous êtes plus libre et épanoui aujourd'hui ou plus dépendant et aliéné à cause du numérique?
Ah, ça, c'est presque une question philosophique. Je vais pas y répondre tout de suite. Ce sera un sujet de philo. Hein. Il y a de quoi faire, là. Je donnerai pas ma réponse tout de suite. Mais c'est une très bonne question.
Oui, c'est une très bonne question. Mais enfin, moi, en tant que malvoyante, je pense quand même qu'aujourd'hui, on a plus de possibilités qu'il y a 40 ans. Hein. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair.
Il y a une différence énorme, hein, entre la période non-informatique et la période d'aujourd'hui. Il y a énormément d'opérations que je ne pouvais pas réaliser, que je peux réaliser. Hein. Bah, bêtement, là, remplir la déclaration d'impôt. Avant, c'était ma femme qui devait s'y coller. Hein. il y a des tas de choses, d'informations auxquelles je peux accéder, ça c'est fondamental, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, je peux accéder à l'information, me faire une idée. Alors qu'avant, la seule information qu'on avait, c'était la radio, hein. Le journal, on pouvait, peut-être la télé, mais la radio, le journal, on ne pouvait pas le lire. Hein. Toutes les informations qui circulent à droite et à gauche, on n'y avait pas accès. Ça, c'est quand même énorme. Hein.
Alors, je dois quand même dire que c'est vrai que l'information, l'accès à l'information, à la communication, ça a été déterminant pour beaucoup de gens. Ça a bouleversé un peu nos vies. Bien sûr, l'accès à la culture, aux loisirs, mais toujours via le prisme de l'informatique et des nouvelles technologies. Et même dans les déplacements au quotidien, on peut arriver maintenant avec un outil adapté à se déplacer dans un endroit qui nous est complètement inconnu, alors que ça, c'était inimaginable il y a 30 ans ou 40 ans, quoi. Je ne me serais jamais lancé à aller visiter une ville à Montpellier tout seul comme je l'ai fait il y a quelques années. Je l'ai fait avec mon smartphone pour découvrir les rues d'une ville, quoi. Voilà. Mais après, c'est une question de tempérament. Il y a des gens qui sont tout à fait en capacité de le faire, mais qui ne le feront pas parce qu'ils n'y verront pas l'intérêt de le faire tout seul. Voilà.
J'ajouterai quelque chose.
Ouais.
Tiens, le micro est là. Ouais. Oui, alors j'adhère tout à fait à ce qui a été dit. Hein, l'informatique nous a ouvert des espaces auxquels on ne songeait même pas jadis. Hein. Mais cependant, je dirais quand même que ça nous aliène un peu, ça nous frustre très souvent, hein, et c'est un combat de tous les jours, quoi.
Ouais. Je voudrais juste encore ajouter quelque chose, Jean-Claude. Alors, moi, il y a une chose. Malgré toutes ces évolutions, toutes ces nouvelles approches avec les nouvelles technologies, avec l'informatique adaptée, les smartphones adaptés, et pourquoi l'emploi des personnes handicapées visuelles n'a pas suivi ? On en est toujours à des chiffres récurrents. Mais ça, c'est terrible, quoi.
Voilà,
la plus grande frustration pour moi, c'est ça. Franchement, il y a 30 ans, il y a 40 ans, c'était plus facile de trouver du boulot pour beaucoup d'entre nous que maintenant. Et ça, c'est...
Oui,
bien sûr. Mais il n'y a rien qui a suivi la courbe des nouvelles technologies pour nous ouvrir de nouveaux postes, quoi.
Oui, et comme pour l'accessibilité des sites, ben, les entreprises préfèrent payer des amendes ou payer des CAT pour...
Ils préfèrent payer.
D'embaucher des personnes...
Ils payent leur petite contribution à la GFIP, parce qu'ils n'ont pas le quota de personnes handicapées. Mais ce n'est pas toujours de leur fait. Hein. Il y a aussi un manque d'information du monde économique, des sociétés, pour les faire progresser vers quelque chose de plus large.
Alors que c'est dommage, ça leur apporterait sûrement beaucoup de choses. La diversité, ça apporte toujours...
Après, c'est souvent l'argument qu'on met en avant, oui. Une société plus inclusive qui reçoit, qui donne la chance à tout le monde. Mais j'ai l'impression que c'est des mots creux dans beaucoup de bouches, hein, tout ça. Oui. Hein. Malheureusement, quoi.
C'est la même impression que j'ai. On utilise souvent l'inclusion, l'inclusivité et d'autres mots dans le même genre pour faire semblant qu'on accueille tout le monde, mais au final, on cache ça derrière des beaux discours.
Ouais. Et alors, franchement, moi, moi, j'ai l'impression de dire un gros mot quand je dis ça maintenant. C'est terrible, quoi.
Je pense pas que ce soit un mot creux. C'est que c'est un mot qui reflète énormément de complexité et du coup, les gens se rendent pas compte de ce à quoi ils s'engagent quand ils mettent les pieds là-dedans. L'inclusion numérique aujourd'hui, l'inclusion numérique aujourd'hui, quand on parlait par exemple des sites web qui sont extrêmement dominants, tout ça, c'est tout simplement parce qu'il y a une grande croyance dans les producteurs de contenu actuels, dans le fait que c'est la façon la plus simple de faire de l'inclusion au sens large, c'est-à-dire produire des outils qui soient ergonomiques, qui ne nécessitent pas forcément une grosse prise en main. Et c'est là où, en fait, il faut bien comprendre que je vais mettre une seconde à la place des valides qui, malheureusement, n'ont jamais pensé à vous. Ces gens-là, ils sont sous pression aussi. Ces gens-là, ils ont une société qui leur demande d'être de plus en plus productifs, qui leur demande d'aller de plus en plus vite, de plus en plus en comprenant de moins en moins. Et donc, du coup, l'inclusion, elle se fait à ce niveau-là aussi. Quelqu'un qui arrive sur un site web et qui aura résolu son problème en 1 minute 30 sans avoir lu aucune doc, ça pour dans c'est, les critères d'aujourd'hui.
Cette approche-là est discriminatoire pour moi.
Absolument, absolument.
Totalement discriminatoire.
Complètement d'accord avec
ça. Parce qu'on ne favorise que l'ergonomie des personnes valides pour que ça aille mieux pour elles.
Absolument.
Voilà.
C'est, là, c'est une société qui a refaire, pas une informatique.
Donc, je vais conclure.
Rapide, parce que...
Oui.
Tiens, Daniel. Merci.
Merci. Oui, pour compléter ou pour revenir sur ce que disait Gabriel, les questions d'emploi. Si je ne me trompe, il y a aujourd'hui 50% des personnes déficientes visuelles en âge de travailler qui sont au chômage, enfin, qui n'ont pas de travail. Hein, comment ? Oui, en capacité de travailler. En âge et en capacité de travailler, 50% des DV n'ont pas d'emploi. L'autre jour, avant-hier, ou je ne sais plus quand, lui, pendant l'événement que citait Jean-Claude Beuglin tout à l'heure, le lancement de la plateforme Active DV, on a fait référence à une enquête de la GFIP auprès des employeurs. 60% des employeurs enquêtés se déclarent prêts à embaucher, à intégrer dans leur entreprise des personnes en situation de handicap. Mais parmi ces 60%, deux tiers d'entre eux considèrent que c'est particulièrement compliqué pour les personnes déficientes visuelles. Donc ça veut bien dire qu'il y a un problème de formation, il y a un problème d'information, de sensibilisation. Alors il y a certes le problème de l'accessibilité numérique, on en a parlé tout cet après-midi, et nous à APIDV on est bien axé sur cette question d'accessibilité numérique, mais il n'y a pas que ça. On voit bien qu'il y a d'autres problèmes. Il y a la peur de l'employeur. Il peut y avoir des réticences des collègues aussi, des collègues de travail. Hein. Il n'y a pas que l'employeur, hein. Il y a les collègues de travail. Voilà. Et puis, il y a aussi, il faut le dire, par rapport à nous, par rapport à notre communauté, on a quand même des personnes qui ont peut-être les compétences techniques pour occuper tel ou tel poste, mais qui n'ont pas forcément le savoir-être. Donc ça, c'est important aussi. Les compétences personnelles, le savoir-être, tout ça joue, mais il y a un gros problème de sensibilisation, d'information des employeurs par rapport à la situation des personnes déficientes visuelles, à leur capacité d'action, à leurs compétences et à leur capacité d'action, pour peu qu'on mette à leur disposition des outils qu'ils pourront utiliser. Bon, je ne vais pas refaire la réunion cet après-midi, mais voilà, c'est ça le souci. Mais le problème de l'emploi, effectivement, c'est un problème, je ne sais pas si on peut dire que c'est le problème numéro un. Oui, je crois qu'on peut dire que c'est le problème numéro un pour les personnes déficientes visuelles, parce que derrière l'emploi, il y a toute la question de l'intégration sociale, la citoyenneté, l'intégration dans la société. Et à partir du moment où quelqu'un occupe un emploi, il peut aussi s'intégrer... Bon, on n'a pas parlé de la participation citoyenne, par exemple, une thématique qui est chère à la ville de Strasbourg. Alors, moi, j'ai eu quelques soucis ces derniers temps. Je n'ai pas toujours pu me connecter à des réunions en ligne parce que je ne trouvais pas le bouton. Alors, ou c'est moi qui suis un peu neuneux, ou c'est le site ou le bouton qui n'était pas accessible, qui n'était pas visible par mon lecteur d'écran. Hein, mais là aussi, avec la ville de Strasbourg, je pense qu'il y aura des choses à vérifier, à valider.
Oui, je rebondis.
Je termine, c'est fini, Irina. Je te donne la parole pour que tu puisses conclure.
Oui, je voulais rebondir en disant qu'il n'y a pas que dans l'emploi, dans les études, c'est pareil. Hein. Je vois, il y a une peur du handicap. Il y a une peur... un handicapé, ça va compliquer les choses, ça va perturber la classe, je ne saurais pas quoi faire avec, je n'ai pas envie de m'adapter à la personne, etc. Il y a une méconnaissance de ce qu'il faudrait faire pour, et si on n'a pas effectivement la formation, ça n'aide pas non plus après pour trouver un travail. Il y a beaucoup de personnes qui ont dû arrêter leurs études parce qu'on ne leur donnait pas les moyens d'y arriver. Et pareil, pas que les enseignants, aussi les camarades. Beaucoup de gens qui ont peur qu'on triche, qui ont peur parce qu'on utilise un ordinateur, parce qu'ils ont peur qu'on soit favorisé par rapport à eux, etc. Il y a beaucoup de choses à déconstruire. Oui, mais les autres ne le comprennent pas. Ils pensent qu'on est des chouchous, que qu'on va être pris en pitié, du coup on va être favorisé, alors que c'est pas du tout le cas. On nous met plutôt des bâtons dans les roues. Mais voilà, il y a tout un ensemble de peurs et de inconsciemment ou pas, et de choses à déconstruire.
Est-ce que je peux vous inviter à poursuivre la discussion autour d'un verre et d'un petit gâteau et mettre fin à la captation, si ça vous va? Voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre participation. Et à tout de suite.
On vous remercie pour votre invitation, déjà. C'était une bonne initiative.
De rien, merci. Donc, bienvenue à notre buffet. Et...